Autre petite remarque introductive. Je crois bon de préciser ou de repréciser que je fais une lecture singulière, particulière, de ces vieux textes, en l'occurrence Augustin et Paul, que je ne lis pas de manière orthodoxe, c'est-à-dire, bien sûr, je ne suis pas complètement ignorant de leur tradition de lecture a posteriori. En même temps, je ne suis pas du tout spécialiste de cette tradition de lecture. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir affaire à un certain nombre de formules qui ont été lancées pour nous, d'une certaine manière, il y a longtemps, qui ont eu des échos multiples, divers, compliqués, complexes, tout au long de l'histoire. Et je reprends ces textes avec l'idée que peut-être on peut les décaper un petit peu, simplement les décaper. Et puis, au moins dans un premier temps, même si ce premier temps, en fait, se démultiplie de séance en séance, hein, disons, le premier temps, c'est cette année, quoi. Simplement examiner ce qu'ils peuvent nous donner à penser encore aujourd'hui. Voilà, je veux le préciser, c'est-à-dire je ne m'enferme pas dans une orthodoxie paulinienne ou augustinienne que par ailleurs je ne connais pas suffisamment. Voilà. Bien, alors cette précision étant faite, j'attaque le motif ou le sujet du jour. Je pense que vous vous souvenez donc de la démarche qui a consisté à me confronter simplement au mot « urgence » et à me demander si ce mot avait déjà été réfléchi. La réponse est oui, puisque donc il y a un vieux texte d'Augustin qui en fait une affaire et qui l'analyse en le faisant travailler dans la langue native pour lui, le latin, et qui prend une comparaison que je rappelle rapidement pour lancer la séance de ce soir. C'est comme une olive écrasée dans un pressoir. C'est ça, passer par l'urgence, être passé par l'urgence, c'est comme avoir été une olive écrasée dans un pressoir qui donne... une fois le passage effectué, un jus, une huile, qui autrement n'aurait pas été donnée, et qui probablement, dans l'état initial de l'olive, par traduction de la comparaison du sujet écrasé par la presse, est ignoré par ce sujet lui-même. C'est-à-dire... moi qui suis passé par l'urgence, qui ai fait l'expérience de ce que c'était vraiment que l'urgence, je ne savais pas que je possédais l'huile d'olive en question. Voilà. Alors il me semble que cette comparaison donc augustinienne de l'olive écrasée pour penser ou définir ce que c'est que l'urgence permet de penser deux choses. La première, que donc, je me répète un petit peu, l'urgence peut être comparée à un passage où un être qui avait un certain état de fructification dans le monde et donc qui avait en même temps une certaine tenue dans ce monde perd justement cette tenue au profit d'une autre qui le conduit à donner, comme je viens de le rappeler, un jus qu'il ne donnait pas jusqu'alors. En ce sens-là, il nous est donc suggéré de penser qu'il y a, à terme, une générosité de l'urgence. Ou, si vous voulez que je le dise, je ne l'ai pas écrit comme ça sur mes notes, mais peut-être pour le dire plus simplement, que finalement, dans cette source de pensée-là, il y a une positivité, finalement, de l'urgence. Hein, même si... le passage par le pressoir, c'est pas rien, puisqu'on est écrasé. Voilà. Mais au bout du compte, il y a quand même une générosité du passage en question. Donc je note ça, premièrement. Et la deuxième chose que donne à penser la comparaison augustinienne de l'olive, c'est que, j'en avais parlé, je crois, précédemment, ce passage, donc je pense que vous entendez que je souligne ce mot, hein, le passage, c'est un passage, c'est un moment à passer. Bon. Ce passage est précédé de ce que cette tradition de pensée aura appelé une tribulation, c'est-à-dire d'un temps d'approche qui est à la fois redoutable et redouté. Ce n'est donc pas facilement qu'un être se rend à l'urgence, parce que la tribulation qui y conduit touche à ses arrangements avec le monde et touche à ce qui fait de lui, dans l'ordinaire initial de sa vie, un sujet accommodé. Donc je pense que c'est ça que nous sommes. Il faut bien que nous nous accommodions du monde comme il est, même si, par hypothèse, ce monde, sans le savoir forcément de façon précise, est en réalité en état d'urgence. Donc le sujet, en tout cas, qui va être pressé par l'urgence, donner à terme la générosité dont je viens de rappeler, est d'abord un sujet accommodé, et peut-être que l'urgence le désaccommode. Dans la tradition augustino-paulinienne, que donc je suis en train de lire depuis bientôt trois séances, cette difficulté qu'est l'expérience de l'urgence est renforcée. Ça, c'est ce que je n'ai pas encore dit, je le dis ce soir, donc c'est nouveau, si vous voulez. Dans la tradition augustinienne que je suis en train de lire, la difficulté de l'urgence est renforcée par le fait que cette expérience n'est pas synchrone. Autrement dit, tous les humains ne sont pas pressés en même temps. On peut dire, dans la comparaison, finalement, on peut dire c'est une olive à la fois qui passe au pressoir, mais pas tout en même temps. Donc, ce n'est pas une expérience synchronique. Voilà. Je pense que ce point est essentiel. Je pense que chez les auteurs chrétiens que je mentionne dans ces séances de séminaire, c'est la fin des temps qui serait la présentation synchronique d'une urgence dès lors irrémédiable. Je ne suis pas spécialiste, je le dis en commençant, mais enfin, pour ce que je connais des textes de Paul, je pense que c'est ce que ça veut dire. La fin des temps sera, ou serait, si cette fin peut exister, le moment où tout le monde serait pressé en même temps. Autrement, en attendant, si j'ose dire, il y a des gens qui sentent la presse, qui passent, et d'autres pas. Ce n'est pas une expérience synchronique. Or, à la fin des temps, par définition, nous n'y sommes pas. Nous sommes dans le temps, pas à la fin du temps. Dans le temps historique des humains, l'épreuve de l'urgence n'est pas également partagée. Sa temporalité et sa modalité sont variables. Sa temporalité est variable puisque, comme je viens de vous le dire, tous ne l'éprouvent pas à la même heure. Et sa modalité est variable puisque, comme nous allons voir dans les pensées que j'examine, il est admis que les êtres qu'elle pourrait ou qu'elle devrait concerner, l'urgence, résistent à son annonce. C'est-à-dire simplement, on ne veut pas savoir, on ne veut pas entendre parler de ça, c'est trop dur, la perspective de la presse, etc., c'est trop dur, on ne veut pas en entendre parler, donc on résiste avec les accommodements qui sont les siens, dans le monde comme il est, on résiste à l'annonce de l'urgence, ou pour le dire dans le vieux grec, on résiste à son évangile, c'est-à-dire Angile, Angelos, l'annonce, et Ève, eux, le fait que c'est en fait, malgré les apparences, la presse, l'écrasement, etc., une bonne nouvelle. On résiste à la fois à l'annonce de l'urgence et à la dimension de bonne nouvelle de cette annonce. En tout cas, dans les textes que j'examine, c'est ça qui, me semble-t-il, est donné à penser. On résiste à la dimension paradoxale de bonne nouvelle de l'urgence. Alors je ne dis pas que nous pensons ça tous aujourd'hui comme ça. Je dis, dans les textes que je lis, c'est comme ça que c'est, au fond, proposé. À nous de méditer là-dessus. Par ailleurs, si cette fois je me réfère au registre de comparaison, non plus de Paul et de Augustin, mais celui de Simone Veil, que je vous avais lu, je crois, la dernière fois. Si vous vous souvenez de la comparaison de Simone Veil, hein, comme, on est comme dans la cellule d'une prison, on se cogne la tête contre les murs, et puis on se cogne, et un jour, on ne sait pas pourquoi, on se retrouve ailleurs, dans un autre état d'esprit, on a passé la muraille. Quel sujet, si je médite dans ce registre de comparaison-là, quel sujet pourrait avoir envie de reconnaître son rayon d'action ordinaire comme limité au mur d'une prison ? C'est-à-dire, qui peut avoir envie de penser qu'il est dans le monde d'aujourd'hui comme dans une prison ? Hein, c'est ce que Simone Veil a invité à nous faire penser. Et qui pourrait avoir envie de, si c'est ça la condition, pour passer l'urgence, qui pourrait avoir envie de se cogner contre les murs ? Et qui ne préférerait pas, étant quand même, le cas échéant, parvenu à cette situation, qui ne préférerait pas chercher alors d'abord à déplacer l'enceinte de ces murs, c'est-à-dire à agrandir sa zone de confort et sa part de liberté apparente ? Je veux dire qu'on peut comprendre, dans ce registre de comparaison, que la première tendance de quelqu'un qui, en fait, est emprisonné dans le monde, mais ne veut pas le savoir, ne veut pas éprouver les limites de sa zone de confort, de sa zone d'accommodation, et au fond préfère non pas, pour le dire vite, changer de monde, mais essayer autant qu'il peut d'agrandir sa zone de confort et sa part de liberté apparente. C'est-à-dire, elle disait ça, Simone Veil, je ne sais pas si vous en souvenez, on peut chercher à vivre dans une plus grande cellule, en attendant. Voilà. Bon. Qui n'aurait pas, au fond, à l'esprit, plutôt ce genre de pensée que celle qui dit bah, il faut se faire écraser par l'urgence et puis il faut y aller, quoi. Quoi qu'il en soit, de ce que je viens de vous dire, l'urgence n'apparaît pas à tous ceux qu'elle pourrait concerner, elle ne leur apparaît pas comme pareillement et comme, au fond, inévitablement pressante. Donc c'est peut-être une caractéristique de l'urgence, qu'elle ne semble pas, allez, oui, il y a des urgences, mais ce n'est pas si grave, hein, finalement. Donc ça ne semble pas à tous, on n'est pas synchrone, ça ne semble pas à tous pareillement et, au fond, inévitablement pressant. Et chez Simone Veil encore, la conversion, hein, le passage de l'autre côté du mur, ne se produit pas à volonté. Elle arrive un jour, mais ce jour n'est pas calculable. Il me semble que le texte était assez clair là-dessus, et je pense que vous vous en souvenez. Alors, cette double thématique d'une tribulation difficile et risquée explique que l'on puisse résister, quasiment au sens freudien d'un ne pas vouloir entendre ou d'un ne pas vouloir voir, cette double thématique d'une tribulation difficile et risquée explique qu'on puisse résister à passer le stade de la presse. On se retient devant l'urgence, on a des raisons de n'y pas croire, quand bien même, si on suit Paul, on n'a pas de véritable foi à lui opposer, hein, puisque ça c'est un de ses thèmes, la foi, pistis, hein, bon, croyance, enfin, qui est l'aboutissement, dans son langage à lui, la véritable foi, pas la foi banale, la véritable foi qui est l'aboutissement de l'expérience de l'urgence, cette conversion, hein, dans la phase antérieure, elle n'est pas là, Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de croyances du tout, c'est que ces croyances ne sont pas véritables, qu'elles ne sont pas substantielles, je ne sais pas comment les qualifier. Hein. En tout cas, on n'a pas de véritable foi à opposer, dans la perspective de Paul, à l'expérience de l'urgence, ce qui veut dire, si je traduis au fond, que l'état d'accommodation ordinaire au monde, de son point de vue, est habité par une sorte de, de mauvaise foi, de mauvaise conscience et ou, comme vous voudrez, de déni. Donc je fais un petit pas dans l'analyse. Si je suis ce langage, puisque c'est ce à quoi je me suis engagé, lire les textes, si la véritable foi est le résultat de la traversée du passage par l'urgence, alors ça veut dire qu'avant, pour qui n'est pas passé dans l'urgence, il n'y a pas de véritable foi. Donc s'il n'y a pas de véritable foi, c'est moi qui le dis, je l'ajoute en lecteur. Alors c'est que nous sommes habités dans notre état mondain ordinaire. Le contraire d'une véritable foi, c'est une mauvaise foi. Donc nous sommes de mauvaise foi. Nous sommes de mauvaise foi, c'est-à-dire, je peux le dire autrement, nous sommes dans une sorte de mauvaise conscience qui se caractériserait par le fait qu'on dénie l'objectivité, si j'ose dire, de le caractère substantiel effectif de l'urgence. Hein. Bon, est-ce que... pas la peine que je fasse un dessin. Je veux dire, il me semble qu'on est un peu comme ça, quoi, aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, c'est pas que personne ne nous annonce qu'il y a urgence, c'est qu'on voit pas du tout là-dedans que ça puisse être une bonne nouvelle et qu'en attendant, on préfère rester dans la sorte de mauvaise conscience qu'on a de la situation. Alors, la tradition chrétienne, appuyée sur une lettre probablement inauthentique de Paul, mais qui est quand même entrée sous son nom dans la tradition, qui est la seconde épître aux Thessaloniciens, la tradition chrétienne, pour évoquer ce que je viens d'essayer de vous décrire, a parlé de catéchone, ça c'est le mot qu'on trouve dans la seconde épître en question, dans le vieux grec, qu'on peut traduire par rétention du mal et en lui. Rétention. On est devant l'urgence, avant l'urgence, dans une sorte de. Alors moi j'ai dit mauvaise conscience, déni, etc. Le terme de la tradition chrétienne, c'est rétention du mal. Traduction de ce catéchone, bon, j'ajoute rétention du mal. Il y a deux choses. On est dans la rétention de quelque chose, puisqu'on retient le jus de l'olive dont on ne sait pas détenteur. Il est retenu en nous et on se retient de passer par l'urgence. On n'y va pas. C'est trop difficile, c'est trop risqué, etc., etc. Et puis on risque d'être écrasé. Enfin, bon. Et puis on ne voit pas la bonne nouvelle là-dedans. Enfin, bon. Donc, cette affaire a déjà été anticipée dans la langue de ceux qui ont commenté les textes pauliniens, rétention du mal, catéchone, pour le mot source. Alors, qu'est-ce qui justifie cette rétention? Je viens de parler, j'espère que j'étais à peu près clair, de déni, c'est-à-dire... Alors, excusez-moi pour cette citation, parce que cette fois, c'est de moi que je vais parler. Je viens de parler de déni, et depuis mon livre « De l'un à l'autre », auquel je fais simplement rapidement allusion en passant, je pense que cette notion de déni explique le pouvoir. Je m'explique aujourd'hui, enfin depuis que j'ai écrit ce livre, le pouvoir comme se fondant... comment dire ça, radicalement, enfin, sur quelque chose qui est de l'ordre du déni. Pour moi, c'est l'une des thèses de ce livre que je regrette d'avoir écrit si compliqué ou si dense. Mais enfin, bon, maintenant c'est trop tard, il est fait. En tout cas, il y a ça, je pense, dans ce livre, c'est que... Je peux en reparler tout à l'heure en discussion si vous le souhaitez. En tout cas, je lis du verbe « lier » les deux choses... Dans la mesure où nous serions mauvaise conscience, mauvaise foi, déni de quelque chose dans la situation où l'urgence s'annonce et qu'on ne veut pas savoir, etc., cette situation-là peut, me semble-t-il, depuis pas si longtemps que ça, mais me semble-t-il désormais, se rapporte, explique au fond, fondamentalement, le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir s'entretient, pour le dire plus vite, même si je ne l'ai pas écrit comme ça, le pouvoir s'entretient de la mauvaise conscience. Alors peut-être que s'il y a de la bonne nouvelle, quand même, quelque part dans l'urgence, c'est parce que peut-être que dans la situation d'urgence, il y a matière à attaquer le pouvoir. Ce que j'appelle le pouvoir. Bon, je pense, en d'autres termes, que la logique qui peut détourner de l'expérience de l'urgence et qui entretient nos prisons existentielles travaille dans ce sens-là, à savoir perpétuer ce que, donc, j'appelle pouvoir. Autrement dit, ce qui constitutivement ne peut pas ou se refuse à voir une réalité. Donc, je lis le déni au pouvoir, et par conséquent, je lis le pouvoir au fait, le déni, de ne pas vouloir voir une réalité. La métaphore impliquée dans la notion polynienne de thlipsis, pour sa part, est plus psychique. Hein, parce que, évidemment, si vous acceptez ce que je viens de vous proposer, vous sentez bien, certainement, que je pourrais faire dériver mon analyse du côté d'une réflexion de caractère, disons, politique. Hein, le pouvoir, attaquer le pouvoir, c'est toujours peu ou prou entendu comme étant une position de caractère politique. Dans les textes que je lis de Paul, je ne trouve pas la notion de politique. Je pense que l'analyse et la métaphore impliquée dans la notion de thlipsis, vous vous souvenez, la métaphore impliquée, qui va avec la tribulation, hein, on est fait de paille et il faut aller se faire brûler pour savoir si on est justement fait de paille, dans ce cas on est réduit en cendres, ou si on est fait d'or, et dans ce cas l'or résistant au feu, je saurais qu'il y a de l'or. Bon. Donc cette approche des choses, ben, il me semble qu'on peut dire qu'elle est, elle se donne en tout cas comme plus psychique que apparemment politique. La métaphore impliquée dans la notion polynienne de thlipsis laisse entendre que nul être accommodé au monde n'est disposé à savoir s'il est fait d'or ou de paille. Vaut mieux pas savoir. Je préfère ne pas savoir. Déni. Ce qui est peut-être une façon, soit dit en passant, ça je ne l'ai pas écrit non plus, d'intérioriser le pouvoir. Je ne veux pas savoir de quoi je suis fait. Voilà. Ce qui, en fait, est une façon d'entretenir en moi, psychiquement, le pouvoir. Par extension, si peut-être je reprends ma phrase pour que ça soit clair, la métaphore impliquée dans la notion de thlipsis laisse entendre que nul être accommodé au monde n'est disposé à savoir s'il est fait d'or ou de paille. Par extension, nul n'est prêt à perdre ses appuis et à se passer des prothèses qui lui permettent de tenir dans la situation comme elle est. Donc je pose que nous tenons, vaille que vaille, dans le monde, avec nous avons des appuis. Hein. Je cite ces textes parce que me travaille, ça va revenir, des formules que j'avais lues il y a longtemps chez des gens comme Kandinsky, par exemple. Hein, l'être sans appui, la crise existentielle se manifeste ou se manifesterait par le fait qu'à un moment, on passe par l'expérience du sans-appui, disait Kandinsky, expression qui m'a toujours intrigué. Nul n'est prêt à perdre ses appuis et les prothèses existentielles, c'est-à-dire, il y a urgence, il faut qu'on change de monde, mais pour ça, il faudrait qu'on perde toutes les habitudes objectives, fournies d'objets, avec lesquels nous vivons et qui nous appuient dans nos existences concrètes au jour le jour. La proximité de l'urgence, ou pour mieux dire peut-être le sentiment que l'urgence est proche et que les accommodements existentiels ne peuvent finalement nous promettre que de vivre dans une cellule et dans un enfermement peu ou prou confortable, le sentiment donc que l'urgence est proche et que ces accommodements existentiels ne nous promettent en dernière analyse qu'une vie dans une cellule plus ou moins confortable, plutôt plus confortable si c'est possible, ces affaires-là, ces sentiments-là sont angoissants pour le sujet, subjectivé, comme je disais la fois précédente. Ces sentiments d'approche, si vous voulez, de l'angoisse sont angoissants pour le sujet qui, précisément, se tient aux règles, fussent-elles des règles de pouvoir, qui tout de même lui donnent une place ou le casent dans le monde. Donc je vais garder pour ce soir cette expression que je suis content d'avoir trouvée. Les règles de pouvoir qui nous casent dans le monde, qui nous donnent une case. On est casé. Voilà. Est-ce qu'on se dit pas ça toujours peu ou prou? J'ai une petite case, mais enfin, c'est déjà ça. Voilà. Si je peux l'agrandir et la rendre plus confortable, pourquoi pas? Mais ça change pas le fait d'être casé. Alors que peut-être justement l'expérience de l'urgence, l'expérience profonde, radicale de l'urgence, consiste à remettre en cause les cases mêmes, le casage. Si j'ose dire, la place qu'on occupe vaille que vaille dans le monde. Il résulte de tout ça que ceux sur qui leur placement dans le monde pèse au point de n'en plus supporter les contraintes, parce que finalement, peut-être que ce qui mène justifierait le passage dans la presse de l'urgence, c'est que je me sens trop casé, je ne peux plus supporter ça, et donc je me rends quand même au sentiment d'urgence. Voilà. Mais ceux qui, c'est pas vraiment un raisonnement, mais ceux qui adopteraient, disons, cette position que je viens de dire, pour les raisons que j'essayais de vous faire entendre précédemment, ne sont probablement pas, ça peut se comprendre, le plus nombreux. Moins nombreux sont ceux qui sentent les limites de leur case existentielle. Voilà. Et donc, pour revenir à ce que je disais précédemment, on peut comprendre que l'expérience de l'urgence ne soit pas une expérience synchronique. Et en tout cas, pas une expérience partagée, comme on dit aujourd'hui. Si donc l'épreuve de l'urgence peut, sans que ce soit certain, ne pas réduire en cendres celui qui, par hypothèse, l'aurait traversé, si l'épreuve de l'urgence peut, sans que ce soit jamais certain, puisque, je rappelle la lecture de la métaphore d'il y a 15 jours, on ne sait pas si on est fait de paille ou d'or. On le saura si on se brûle à l'expérience. Et si cette épreuve peut ne pas réduire en cendres celui qui, par hypothèse, l'aurait traversé, il est en revanche très probable, donc, qu'elle le désynchronise. Autrement dit, non seulement tout le monde n'est pas brûlé pour la même conséquence, il y en a qui sont brûlés et qui se retrouvent hors, et il y en a qui sont brûlés et qui, j'avais dit, je crois, la dernière fois, explosent comme sujet, sont réduits en cendres, passe à l'acte. Vous vous souvenez de ça, les passages à l'acte? Donc, non seulement tout le monde n'est pas brûlé pour la même conséquence, mais encore, personne ne l'est en même temps. Le plus grand nombre des humains continue, en dépit de l'imminence, par hypothèse de l'urgence, le plus grand nombre des humains continue à faire société, continue à faire face dans les conditions sociales, continue à jouer des rôles d'acteurs sociaux, j'avais évoqué ça, je crois, il y a 15 jours, comme si aucune urgence, comme si rien de décisif, par conséquent, ne se présentait à l'horizon, ni même n'était fondé à le faire. Alors, si vous admettez toute cette espèce de description de la situation d'imminence de l'urgence, dans ces conditions, toutes ces conditions, toute cette description étant rappelée, dans ces conditions, comment le sujet pressé se conduira-t-il avec le grand nombre de ses contemporains retenus, eux, dans leur case mondaine. Je vais essayer d'analyser maintenant la situation qui fait certains d'entre nous, pas beaucoup, ont éprouvé vraiment ce que c'est que l'urgence, en sont ressortis, disons transformés pour parler vite, mais se retrouvent avec des contemporains au sens strict du mot, hein, cum tempus, ceux qui vivent dans le même temps qu'eux, voilà, qui eux sont restés dans leur case, leur prison, etc. Et donc, n'ont pas cette expérience. Comment, si je disais ça banalement, je ne l'ai pas du tout écrit comme ça, comment ceux qui sont passés par là et ceux qui se sont retenus de passer par là, comment peuvent-ils se comprendre? Comment peuvent-ils vivre en contemporain dans un monde qui est toujours ce qu'il est? Alors, celui-là, le sujet pressé qui revient dans le monde avec ses contemporains, celui-là, je dirais, dans une sorte de jeu de mots, j'espère que vous allez apprécier, je dirais qu'il est conduit à vivre comme personne. Alors, je vous laisse un tout petit peu méditer sur cette formule. Hein. Vivre comme personne, ça veut dire vivre comme nul autre, ou comme pas beaucoup d'autres, mais ça veut dire aussi vivre personnellement, en tant que personne. C'est-à-dire, je pense que, si je lis tous ces textes, ils me donnent à penser que celui ou celle, bien sûr, hein, qui est passé par l'urgence, est conduit par cette expérience rare à vivre comme personne, c'est-à-dire à la fois comme peu d'autres et sur un mode plus personnel. Ce mode d'être, la personnalité, concerne le sujet isolément. C'est ça que je voudrais soutenir maintenant. Alors, peut-être il faut que je précise, je l'ai déjà fait, persona en latin, le masque, hein, le masque de l'acteur qui monte sur scène, et donc il y a une dimension d'intériorité, c'est-à-dire persona désigne deux choses, le se montrer, la face qu'on monte, qui en fait est un masque, et puis derrière, en arrière, enfin, un visage qui ne se découvre pas, qui est le visage personnel, hein, de la personne. Donc je n'oublie pas, si vous voulez, cette étymologie du mot, quand je le dis, comme je commence à le faire ce soir, vivre personnellement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors je pense que c'est ce qui arrive dans la tradition des textes de Paul à ceux qui se sont convertis, hein, qui sont passés par l'urgence et qui se mettent à vivre personnellement. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a deux niveaux à analyser, comment ils se montrent aux autres et comment ils se trouvent eux-mêmes intérieurement. Alors, la thèse qui me semble résider dans les textes en question, c'est que ce mode d'être, la personnalité, concerne le sujet isolément considéré, c'est-à-dire se trouver quelqu'un, être une personne vraiment, une personnalité. Se trouver quelqu'un, c'est se trouver un. Alors, un, ça veut dire peut-être... ça pourrait vouloir dire l'unité de soi, ça c'est l'hypothèse que je vais exclure, mais ça veut dire se retrouver un tout seul. Voilà. Peut-être que la première chose qui arrive à l'être pressé, c'est de se retrouver solitaire comme personne. Alors là aussi, entendez la phrase en français, solitaire comme personne, c'est-à-dire comme aucun autre. Voilà. Et se trouver solitaire, parce que pour se trouver comme une personnalité, pas un acteur social, mais une personnalité, il faut passer par l'expérience de la solitude. Voilà, c'est sur quoi je réfléchis un petit peu, disons. En tout cas, ce mode d'être, la personnalité, concerne le sujet isolément, d'une part, et d'autre part, n'a pas en vue de changer la vie des autres. Je pense que le retour dans le monde du sujet pressé, dans l'ambiance, si vous voulez, des textes pauliniens, c'est pas de revenir, je sais pas comment dire ça, en missionnaire, avec dans l'idée que maintenant, j'ai, moi qui suis devenu quelqu'un, les bases de quoi changer la vie des autres. Voilà. Le sujet personnel, se trouvant dans sa personne, n'a pas pour conséquence, ou son expérience, l'expérience qui le mène à ça, se trouver comme sujet dans sa personne, n'a pas pour conséquence de planifier pour tout autre un changement des conditions de vie. Au reste, même le converti, chez Paul en tout cas, continue à aller et venir dans le monde tel qu'il demeure. Et je vais vous le prouver. Lecture de texte à l'appui. Voilà. Chez Paul, après nous, ce que nous souhaitons penser de tout ça, nous en parlerons le moment venu. Mais chez Paul, le converti revient, on pourrait dire, au monde et va continuer à aller et venir dans le monde tel qu'il demeure. Encore une fois, je pense sans... comment dire, je n'ai pas trouvé de meilleure formule que dire sans chercher à changer la vie des autres. Voilà. Mais, alors c'est le sujet de la soirée, il le fait, cette continuation d'aller et venir dans le monde tel qu'il demeure, il le fait selon une expression étrange, si bien commentée par Agamben dans Le temps qui reste. Alors, je vous la donne telle qu'elle est, dans le texte de Paul, comme nom. C'est tout. Il revient au monde comme nom. Osme, dans le vieux grec. Voilà, comme nom. Alors, Agamben a relevé ça et l'a commenté. Je n'ai pas d'autre mot à dire que magnifiquement. Même si je vais essayer de prudemment et difficilement de sortir de l'interprétation d'Agamben.
Dans quel texte, excusez-moi, d'Agamben, tu parles ?
Le temps qui reste. Je crois même pouvoir vous dire que c'est du côté de la page 45. Voilà. J'ai révisé avant de venir. Hein. Alors, je vais évidemment reprendre les termes du commentaire d'Agamben et tenter d'expliquer à ma façon le sens de cette formule « osmet comme non ». Avant, je voudrais insister sur son écart de principe avec toute idée permettant à chacun de se penser comme chargé de sauver le monde. Je pense que la façon dont Paul nomme, décrit le retour dans le monde, ce que j'appelle le retour dans le monde, je ne l'ai pas écrit comme ça, je ne pense pas que cette formule soit tout à fait judicieuse, mais pour qu'on se comprenne... gardons-la pour ce soir, le retour du converti dans le monde ne se fait pas avec, chez celui-là, devenu un sujet personnel, l'idée que désormais, puisque moi je sais ce que c'est que l'urgence, je suis passé par là, etc., je suis chargé de sauver le monde. Je ne pense pas, même peut-être si d'autres ne sont pas de cet avis, moi je ne pense pas que le texte et les textes de Paul, comme je parviens à les comprendre, chargent le converti de la mission de sauver le monde, ni qu'il soit par le fait qu'il est ressorti de l'expérience de l'urgence comme personne, ni le convainc au fond qu'il serait doté en soi des clés et des raisons qui lui permettrait de sauver la vie des autres et de changer le monde. La propagation du sentiment d'urgence, autrement dit, la propagation du sentiment d'urgence, dans cette source de pensée-là, d'après moi, n'est pas une propagande. Alors, il y a bien l'idée quand même qu'il faut que ça se propage, ça. Ceux qui ont compris que l'urgence était au fond l'élément possible d'une bonne nouvelle, hein, donnant l'huile, etc. Donc il est bien souhaitable qu'il y ait une propagation du sentiment d'urgence, mais ça touche les personnes une à une, les sujets un par un, et ça ne saurait être, d'après moi, une propagande. Alors je pense qu'il faut que je souligne ce « d'après moi » parce qu'il ne manquerait sûrement pas de texte dans la tradition chrétienne, et même pas que, pour penser différemment. Hein. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que ceux qui auraient soit un savoir, soit une foi tellement chevillée à ce qu'ils sont ou à ce qu'ils sont devenus, qu'ils seraient fondés à propager leur bonne nouvelle sur le mode de la propagande. Je ne pense pas non plus que la propagation du sentiment d'urgence... Mettez tout sur mon compte, hein, je ne pense pas. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout sûr que les lecteurs des mêmes textes en déduiraient ce que je suis en train de déduire pour ma part. Je ne pense pas non plus que la propagation du sentiment d'urgence relève d'une stratégie militante qui viserait peu ou prou à engager les autres dans un mouvement d'opinion ou dans une foi dont ils n'auraient pas, ces autres, éprouvé eux-mêmes personnellement les attendus. Alors, je parle de stratégie militante. Alors peut-être c'est une allusion à ma jeunesse militante. On parlait beaucoup avec ce mot-là, les militants. Et sur le tard, à force de faire du latin dans une certaine mesure, je me suis quand même rendu compte que dans militant, il y avait le mot latin miles, soldat. Hein. Et les soldats, il me semble que ce sont des gens qui obéissent à des stratèges. Stratégie est un mot lui-même militaire. Hein. Et donc, je suis en train d'essayer de produire une lecture des textes de Paul, voire peut-être d'Augustin, qui dégagerait, si vous voulez, le converti de devenir un stratège pour le monde ou un militant dans le monde. Pas de propagande. Voilà. Et donc, l'enjeu... ou la perspective plutôt, ne serait pas, peu ou prou, d'engager les autres, je répète ma formule de tout à l'heure, dans un mouvement d'opinion ou dans une foi dont ces autres n'auraient pas éprouvé personnellement les attendus. Non, la propagation du sentiment d'urgence dépend de l'existence pour chacun, un par un. C'est pas synchrone. La propagation du sentiment d'urgence dépend ou dépendrait de l'existence pour chacun d'une épreuve bouleversante qui, par définition, elle est bouleversante, accidente la vie de qui s'en trouve saisi. Alors, j'ai déjà introduit, je ne sais pas si c'était la dernière fois, je crois que c'est même la fois d'avant, la notion d'accident. Hein, là, qui dit, latin, il arrive quelque chose. Hein, voilà. Il faut qu'il arrive quelque chose personnellement, hein, pour que la dimension éventuelle de bonne nouvelle de l'urgence se propage. Voilà. Il faut qu'il y ait un bouleversement, et ce bouleversement a quelque chose d'un accident de la vie ou dans la vie de chacun. Or, si un accident peut arriver, hein, c'est une façon de traduire, hein, il arrive. Hein. Si un accident peut arriver, si des accidents dans la vie plus ou moins agrémentés de confort, d'appui, de prothèse, qui en fait est une vie casée, enfin bon, si des accidents dans la vie casée, si vous voulez, dans laquelle on vaille que vaille, on vit, voilà. Si des accidents peuvent arriver, même si ces accidents, en tant qu'ils arrivent, ont des conditions de possibilité dont je tâcherai de vous parler, pas ce soir, mais dans l'une ou l'autre des séances qui viennent. Donc, même si les accidents de la vie ont des conditions de possibilité, ils n'ont pas de cause. Voilà. Ils n'ont pas de cause. Alors ça, c'est une vieille idée que j'ai, et je suis en train de lire un livre extrêmement épais de phénoménologie qui dit, dans un autre langage, et pas avec tout à fait les mêmes conséquences, mais peu importe, au fond, la même chose. Hein. Alors, bon, je fais, c'est pas une note de bas de page, c'est une petite parenthèse dans l'exposé, la différence entre conditions de possibilité et cause. Vous avez besoin que je la précise ou c'est... Par exemple, je pense qu'il n'y a pas de cause. C'est pas grave hein, ce que je vais dire là. Il n'y a pas de cause à la peinture de Cézanne. Il y a des conditions de possibilité à cette peinture qui peuvent permettre de comprendre que finalement, elle ne s'est pas produite finalement n'importe quand, etc. Mais en même temps, il n'y a pas de cause. Cézanne aurait pu aussi bien ne pas exister. La peinture de Cézanne aurait pu aussi bien ne pas exister. C'est un accident. Alors évidemment, c'est pas rien. L'accident en question, c'est pas rien. Mais, d'une certaine manière, c'est quelque chose, et ça va m'intéresser beaucoup, beaucoup par la suite, qui peut arriver sans être engrené dans un enchaînement de causes et d'effets. C'est ça que je mets dans la formule. L'accident est quelque chose qui arrive, qui sans doute a des conditions de possibilité, mais n'a pas de cause. De ce qui peut produire un accident au sens que j'essaierai peu à peu de préciser, personne ne dispose par conséquent suffisamment. Personne ne peut disposer des conditions de l'accident de la vie des autres. Je pense ça de plus en plus. Personne ne peut disposer des conditions de l'accident existentiel dont il va falloir qu'on précise les contours. Il y a encore 3 séances hein, pour le faire. Ce n'est donc pas un fait, l'accident bouleversant. Ce n'est pas un fait dont des sujets, quels qu'ils soient, pourraient calculer la présence. Donc ce n'est pas stratégique. Ça ne vient pas dans le cadre d'une opération stratégique. Non, c'est l'élément d'une rencontre. Voilà. Donc je pose le mot ce soir et j'y reviendrai plus tard. La rencontre, c'est la seule façon de rendre compte d'une rencontre, c'est de dire, c'est la fameuse phrase de Montaigne à propos de la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Il n'y a pas d'explication. Voilà. Ça se rencontre, ils se sont rencontrés. Et c'est tout. Voilà. Personne n'a calculé. Si ça avait été calculé, ça n'aurait pas été une rencontre. Et donc, je pense que nous allons nous mettre en quête de ça, de situations dans lesquelles il arrive des rencontres, c'est-à-dire les conditions, pas les causes, les conditions de possibilité d'un bouleversement existentiel. Comme tout ce qui est de l'ordre d'une rencontre, et même si de la rencontre ou de l'accident, il se déduit l'ouverture d'une espérance, mot sur lequel je reviendrai aussi, plus ça va aller vers la fin de ce séminaire, voilà. C'est-à-dire, il y a espérance, puisque mais même si c'est la presse de l'urgence, même l'écrasement de l'olive, etc., au bout du compte, dans les textes que j'examine, il y a quand même l'émergence d'un jus remarquable. Hein. Et donc, de l'urgence, a priori, nous pouvons espérer quelque chose. Hein. Donc, de l'accident, de la rencontre, il se déduit l'ouverture d'une espérance, j'allais presque dire d'une espérance inespérée, que je ne pouvais pas... dans ma situation de sujet casé, imaginé possible, et dont je ne pouvais pas moi-même, ni personne, réunir les conditions objectives. Si on fait ça, alors forcément, pour tout le monde, il arrivera le bouleversement existentiel. Donc, comme tout ce qui est de l'ordre d'une rencontre, et même s'il se déduit de cela l'ouverture d'une espérance, l'accident se produit, il se produit, j'y reviendrai, je vous le promets, par la suite, quand il n'y a pas d'espoir pour cela. Voilà. le bouleversement d'une existence se produit quand il n'y a pas d'espoir pour cela. Il me semble que je peux soutenir ça ce soir. Ça arrive. Voilà. D'ailleurs, ça se dit comme ça. Ça arrive. On ne sait pas quoi. Alors je me dis qu'il vaut peut-être mieux penser de cette manière, aussi difficile que ce soit, parce que en pensant de cette manière, c'est-à-dire nul être qui a connu le bouleversement existentiel n'est fondé à faire quelque chose dont il pourrait penser que ça va inévitablement changer la vie des autres. Hein, je reprends ce... Peut-être il vaut mieux penser les choses ainsi. On peut dire que c'est décevant. Alors Paul, il nous dit ça. Il nous dit finalement, ils ont fait une expérience décisive et ils reviennent dans le monde comme non. D'accord, ça reste à comprendre. Mais au fond, quand même, ils reviennent dans le monde comme il est. Alors, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Et peut-être qu'il vaut mieux penser comme ça, malgré, bien qu'on ait envie éventuellement de rentrer dans des opérations plus ou moins stratégiques et plus ou moins militantes, peut-être vaut-il mieux penser que c'est pas la peine de s'engager dans ce type d'opération, car si on pense comme ça, c'est pas la peine. On a une pensée qui a parmi ses interprétations possibles celle qu'il n'y a pas d'humain apte à avoir, même bouleversé, il n'y a pas d'humain apte à avoir dans son angle de vue personnel, sous la dépendance de son intelligence du monde, il n'y a pas d'humain apte à avoir dans son intelligence du monde le tout de ce monde. Personne d'humain, même converti, quelle que soit la situation, casé ou converti, si vous voulez, si on essaye de prendre les décisions, personne n'est en position d'avoir dans son intelligence la main sur le tout du monde, et même la compréhension du tout du monde. Personne ne pense pour tout le monde. Même si chacun est concerné par le tout du monde, ou par tout le monde, même si chacun est concerné par le tout du monde, puisqu'il s'y trouve placé de toute façon, d'une manière ou d'une autre, pour autant, personne ne peut agir pour le tout du monde, sauf à le ravager despotiquement, sauf à ravager despotiquement ce qu'il y a dans le monde. Est-ce que je suis clair? Oui. Alors, que personne ne soit en situation d'agir pour le tout du monde, sauf finalement celui qui accepte la position despotique, qui est prêt, à vouloir le bonheur des autres. Il y a des despotes qui commencent comme ça, en tout cas. Bon. Nul n'est fondé, dans la tradition de textes que je pense lire, nul n'est fondé à agir pour le tout du monde, sauf à se mettre tôt ou tard dans la position du despote. Et là est sans doute ce qu'Agamben dit encore à sa façon, lorsqu'il formule son concept, son fameux concept qui me travaille, de désactivation. Je pense que c'est peut-être ce que veut dire Agamben quand il parle de désactivation, c'est que nul n'est fondé à ravager despotiquement le monde sous prétexte qu'il en aurait la compréhension totale. Donc peut-être que le concept de désactivation d'Agamben dit ça à sa façon, puisque la désactivation, dans son nom même, signifie qu'on se retient d'être dans l'agir absolu, c'est-à-dire dans une action qui, allant sans retenue au bout du possible et de la puissance d'être qui la motive, produirait en définitive le même résultat qu'un passage à l'acte dévastateur. Agir absolument, Je pense, ça me donne à penser quand même un peu ça, le concept agambénien de désactivation. Il vaut mieux se retenir d'être dans l'agir absolu, parce qu'une action sans retenue, qui irait sans retenue au bout du possible et de la puissance d'être qui la motive, produirait en définitive le même résultat qu'un passage à l'acte dévastateur. J'avais parlé du passage à l'acte il y a 15 jours, je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein, de la dévastation, en quoi consiste, non pas une action, c'est autre chose, mais un passage à l'acte. Un passage à l'acte, c'est destructeur, mais l'hypothèse de l'action, je ne sais pas comment dire, parfaite, l'accomplissement de la dimension de l'action, produirait le même résultat pour le monde, elle le dévasterait. Alors, je ne sais pas si j'en fais pas trop, non, je continue. Oui. Vous voulez dire quelque chose?
Moi, je note une ou deux questions, mais à la fin, parce que des fois...
On les garde encore?
Oui, puis bon. Tu réponds dans la suite.
D'accord. Alors, j'ai un problème maintenant, que j'ai dit tout ça. Que je vais formuler, je relis la phrase que j'ai écrite, que j'ai sous les yeux, et je me dis, oulala, c'est trop compliqué, qu'est-ce que c'est que cette phrase? Enfin bon, je vais vous la lire, et puis je vais essayer de commenter. Donc, j'ai un problème... Que je formule d'abord de la manière suivante, même si ce n'est pas la plus simple ou la plus claire. En quoi la retenue dans l'agir à laquelle le concept de désactivation vient de me faire penser est-elle distincte de la rétention du mal dont je vous parlais précédemment, le catéchone, et où je trouvais, je le dis en passant, que se niche la logique du pouvoir. Donc mon problème, c'est par rapport à Agamben. Mon problème, c'est par rapport au concept de désactivation chez Agamben. Hein, donc, je viens de dire que je le comprenais comme étant une retenue dans l'agir. Hein, pas d'action. Il ne faut pas aller au bout de la puissance d'agir parce que ça serait dévastateur. Alors, on pourrait dire, dans une lecture assez simple, c'est bien de penser comme ça. C'est bien de penser... c'est pour le bien, en tout cas, qui dit ça, Agamben. Mais en quoi c'est différent, au fond, de la rétention du mal dont je parlais tout à l'heure? C'est-à-dire, en quoi la désactivation se distingue de la rétention dont je parlais précédemment et où je trouvais que ce niche, j'essayais de vous le dire rapidement, la logique du pouvoir? Alors, je n'ai pas la réponse à cette question que je me pose. Je me demande... Ce qui peut séparer conceptuellement, je me demande quand même, si vous voulez, bien que je n'ai pas la réponse à la question que je viens de dire, je me demande quand même ce qui peut séparer conceptuellement la désactivation, telle que je la comprends chez Agamben, de la dissuasion, en tant qu'elle implique la dissuasion, la disposition d'une arme, et que ce faisant, la dissuasion, elle arme le pouvoir. Je suis en train d'essayer de vous expliquer la difficulté dans laquelle me met le concept agambénien de désactivation. Et je me dis, alors j'avais déjà parlé du jeu la première fois, le jeu du chat, vous vous souvenez, qui est le même finalement quand il joue avec une pelote et quand il chasse. Donc le jeu a quand même à voir quelque part dans la comparaison que prend Agamben lui-même avec la chasse, la prédation, etc. Et là, j'ai une sorte de doute et je me dis, mais finalement, qu'est-ce qui distingue la désactivation de ce que, donc je vais analyser un tout petit peu tout de suite, la dissuasion. Hein, qu'est-ce que ça veut dire dissuader, être en situation de dissuader quelqu'un de faire quelque chose? Voilà. Alors, évidemment, si je vous dissuade de faire quelque chose, je vous retiens de faire quelque chose et je vous empêche d'entrer, si jamais vous le souhaitiez, dans l'agir absolu. Alors c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien si on dit, ah oui, mais l'agir absolu c'est dévastateur, c'est comme le passage à l'acte, alors il vaut mieux que je vous dissuade d'entrer dans l'agir absolu. Oui, mais dissuader, qu'est-ce que c'est au juste? Voilà. Est-ce que vous pouvez penser le dissuader, le fait de dissuader, la dissuasion, sans impliquer, d'une manière ou d'une autre, le fait que, puisque vous êtes dissuasif, vous disposez d'une arme... et qu'une arme, c'est toujours peu ou prou du pouvoir. Voilà. Parce qu'en effet, qu'est-ce que c'est qu'une arme ? Voilà. Est-ce que ça n'est pas une puissance ? Est-ce que je ne peux pas définir l'arme de la façon suivante ? C'est une puissance dont l'activation serait catastrophique et que donc il vaut mieux ne pas activer. Mais en même temps, c'est en tant qu'elle n'est pas activée que l'arme est dissuasive. Et c'est parce que je l'ai à ma disposition, comme puissance, ou plutôt pouvoir susceptible de déclencher l'utilisation de l'arme, que je suis dissuasif. Et donc je me demande s'il n'y a pas quelque part un rapport entre la façon dont je comprends, en tout cas qu'Agamben définit la dissuasion, et le fait d'occuper la place d'un pouvoir dissuasif. En tout cas, une arme, c'est un objet dont l'activation serait catastrophique et que donc il vaut mieux ne pas activer. Cependant, en tant qu'elle est là comme telle, non activée mais présente, elle n'est pas sans efficacité. L'efficacité de l'arme, elle la doit, sauf quand il y a passage à l'acte, quand elle explose. L'efficacité de l'arme, elle le doit au fait d'être là sans être activée, donc en état de désactivation. Elle est efficace en tant qu'elle est non activée. Elle est menaçante et efficace en tant qu'elle est non activée. Pour le dire autrement, peut-être un peu mieux, l'arme est efficace dans la retenue même de sa puissance. Alors je me demande s'il ne convient pas de généraliser et de dire que le pouvoir aurait lieu dès lors qu'un sujet est pris dans la menace d'un autre. C'est-à-dire, ce qui fait qu'il y a pouvoir, c'est que on constaterait, je ne sais pas comment dire ça, qu'il y a pouvoir parce qu'un sujet est pris dans la menace d'un autre, cet autre étant menaçant par le fait qu'il est une puissance armée, dont il retient l'activation. Est-ce que la menace peut être elle-même autre chose qu'une rétention en puissance ? Donc, si je fais cette analyse, je deviens un peu distant à l'égard d'un concept qui m'avait séduit dans un premier temps, qui est le concept de désactivation chez Agamben. Conséquence, s'il doit s'agir, comme nous y avons déjà pensé ici, d'éviter tout passage à l'acte, qui serait dévastateur, etc., s'il y a bien risque de destruction en cendres dans toute cette affaire d'urgence qui nous occupe, est-ce qu'il ne vaut pas mieux de ne pas se rendre à l'urgence et de demeurer dans les cases du pouvoir ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux finalement demeurer sous la menace que d'aller dans l'activation des armements du monde. Voilà. L'avantage de la désactivation, ça serait de ne pas pousser à bout l'ordonnancement du monde qui pourtant crée le risque et repose sur la menace. Donc on peut dire, voilà, nous sommes dans une situation d'urgence, c'est-à-dire nous sommes dans un monde risqué où il y a du risque et il vaut mieux ne pas de même qu'il vaut mieux ne pas exciter le pouvoir armé, le mettre dans la situation de mettre sa menace à exécution. Voilà. Peut-être qu'il vaudrait mieux, on pourrait peut-être penser ça, ne pas pousser à bout l'ordonnancement du monde qui pourtant crée le risque et repose sur la menace, c'est-à-dire rester, je sais pas comment dire ça, c'est un langage pas très chic, peinard dans sa petite case. Alors, il me semble que nous sommes dans un dilemme. Un dilemme, ça veut dire qu'il n'y a pas d'issue, c'est pas une alternative. Une alternative, c'est ça ou ça, mais vous pouvez penser que ça, c'est mieux que ça, qu'un côté vaut mieux que l'autre. Le dilemme, c'est il n'y a pas de. Donc, quand on est pris dans une situation d'un pouvoir menaçant, hein, quand il y a une menace, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? Voilà. Ne rien faire, c'est pas pousser à bout la menace, donc ça n'expose pas, etc. Ça, on n'est pas réduit en cendres, etc. Mais en même temps, on reste dans un monde armé qui est toujours sous la menace de sa propre explosion. Alors, c'est un dilemme. Bon. Je pense que pour en sortir, il faut considérer moins les cendres que l'or qui peut résulter du passage par l'urgence. C'est-à-dire, je pense que si on examine l'urgence que sous l'aspect du risque menaçant dont elle est détentrice, on se retrouve devant un dilemme et on reste sans bouger finalement dans sa case. Pour sortir de ce dilemme, il faut peut-être moins considérer le risque de la réduction en cendres que le fait que de l'or peut résulter du passage par l'urgence. Et pour aller dans ce sens, peut-être pourrions-nous tâcher de déplacer le lexique avec lequel nos textes sources, Paul et Augustin, sont commentés. L'enjeu, tel que je voudrais le reformuler, ne serait pas tant de désactiver la puissance que de penser, sans mettre ces notions, puissance et activation au principe de toute opération. Donc je vais essayer de vous proposer une analyse de tout ça qui sorte du vocabulaire du lexique d'Agamben. L'enjeu ne serait pas tant de désactiver la puissance que de penser sans mettre les notions de puissance et d'activation au principe de toute opération. Alors, ça, en fait, c'est ça, la sixième séance du séminaire, ça y est, je suis en train de la faire. Je voudrais arriver à faire comprendre ça, donc je comprends que ce soir, ça ne soit pas simple du tout, ni pour vous, ni rassurez-vous pour moi, mais j'essaye de poser les bases de quelque chose dont j'espère expliquer mieux la nature au fur et à mesure. Je vais essayer de penser ce que c'est qu'opérer, mener une opération, opérer, faire quelque chose, c'est ça la question, qu'est-ce que faire dans l'urgence, hein ? Faire quelque chose sans penser le faire, sans impliquer le faire dans les vieilles catégories de puissance et d'activation. Et c'est peut-être bien là, ce qui commence la conversion. C'est en tout cas dans ce sens que je voudrais lire à mon tour ce soir le Comnon paulinien, dont j'ai annoncé que j'allais en parler, mais dont je n'ai toujours pas parlé. Voilà. La conversion commence peut-être à partir du moment où on envisage que faire quelque chose au ou dans le monde, ça n'est pas mettre en œuvre, activer une puissance. J'essaye de penser sans ce lexique-là. Qui se rend à l'urgence, dont l'hypothèse que je vais essayer de soutenir, qui se rend à l'urgence repérerait d'abord, qu'il y a moins puissance qu'impuissance dans le monde. Je me demande si ce n'est pas la conversion, je ne sais pas comment l'appeler, utile. En tout cas, celle à laquelle ce séminaire voudrait vous faire penser s'il y arrive, si j'y arrive. Voilà. C'est qu'en fait, quand on pense l'urgence en pensant, comment dire, à toute la puissance menaçante, armée, qui est en réserve dans le monde. Et ça, c'est peut-être la meilleure hypothèse pour nous encourager à ne rien faire dans le monde. Parce que faire quelque chose, c'est peut-être exciter davantage encore qu'elles ne le sont les puissances destructrices ou risquées, menaçantes, qui sont dans le monde. Alors, je me dis qu'il faut conversion, métanoïa, conversion, penser les choses dans l'autre sens. Qu'en fait, ce à quoi nous devrions nous intéresser, c'est l'enjeu peut-être de la conversion, c'est à considérer que le monde est non pas puissant, mais impuissant. Même le nôtre. Voilà. qui se rend à l'urgence repérerait d'abord qu'il y a moins puissance qu'impuissance dans le monde tel que casé. Qu'en fait, dans les cases où je me trouve situé, je ne suis pas détenteur pour mon compte d'une part de la puissance du monde, mais je suis impuissant. Ce qui fait que ça va mal, c'est un paradoxe. C'est pas qu'on est puissant, c'est qu'on est impuissant. Ou plutôt, si le monde va mal, c'est pas parce qu'il y a des puissants, c'est parce qu'il y a des impuissants. C'est-à-dire, dans un langage plus simple, mais justement, il faut s'en débarrasser, parce que je vais essayer de penser sans ce mot-là. C'est-à-dire, la puissance n'est pas partagée. C'est-à-dire, il y a des zones où elle est accumulée comme une arme dissuasive, et puis il y a des zones où il n'y en a pas, où les cellules sont petites, on ne peut rien faire, etc. Et le problème, ce n'est pas qu'il y ait des zones de puissance, c'est qu'il y a des zones d'impuissance, si vous voulez. J'essaye de retourner, conversion, la façon de voir les choses. Qui se rend à l'urgence repérerait d'abord qu'il y a moins puissance qu'impuissance dans le monde tel que casé, et trouverait d'abord qu'il est lui-même au monde comme tel, sans puissance dans le faire monde. Le sentiment le plus profond de l'urgence que je puisse arriver à comprendre, c'est en fait ça que je suis en train de vous dire. Si j'ai vraiment, si j'ose dire, le sentiment de l'urgence, si j'en fais pas un prétexte, etc., pour que le monde continue, c'est qu'en fait, j'éprouve mon impuissance dans le faire monde. Voilà. Je m'éprouve sans puissance de mise en œuvre dans le monde comme il est. Et paradoxalement, comme nous allons, j'espère, le voir par la suite, de la puissance, celui-là, le converti, celui qui a le sentiment vraiment de l'urgence, de la puissance, il ne cherche pas à disposer. En fait, c'est ça qui arrive au converti paulinien, c'est qu'il revient dans le monde sans chercher à disposer de la puissance. Il n'est pas, je l'ai dit autrement tout à l'heure, pas stratège, pas militant, pas propagandiste, etc. C'est-à-dire, il revient, c'est pour ça qu'il va pouvoir revenir, vous allez voir, dans le monde comme non. C'est-à-dire, il y revient sans chercher à disposer de quelque puissance que ce soit. C'est-à-dire que la base, si j'ose dire, de son existence désormais, c'est l'impuissance. Il faut soutenir ça. Voilà. Le mieux qui pourrait nous arriver, c'est de ne rien pouvoir. C'est un paradoxe, évidemment. Alors, pour juger, est-ce que c'est à peu près clair quand même ce que je vous dis? Bon, ça fait un peu réfléchir. Bon. Alors, pour juger de la pertinence de l'hypothèse, je vous propose de lire le fameux texte de Paul, le comme nom. C'est la première épître aux Corinthiens, 7, verset 29-31. Alors, voici le texte, le fameux texte, cité par Agamben, cité par Badiou, cité par tout le monde, et pas que par eux. Hein. Le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, osmé, comme non. Le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Alors, dans son commentaire de ce passage, dans le temps qui reste, alors c'est page 47 en fait, Agamben montre très bien, et comme toujours très savamment, comment il faut comprendre le « comme ». Très très beau texte, hein, même si j'essaye de m'en dégager. Je reprends en substance, pas littéralement, le propos d'Agamben. Si je vous dis, supposez que je vous dise, soyez comme des enfants, Je ne vous dis pas, soyez des enfants. J'introduis une différence dans votre conduite d'être adulte, qu'en même temps, je vous dis implicitement que vous êtes. Si je vous dis, soyez comme des enfants, je vous dis implicitement, vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des adultes. Soyez comme des enfants, et vous ne pouvez pas l'être, des enfants, puisque vous êtes adultes. C'est une formule très compliquée, en fait. Alors, soyez comme des enfants, ce n'est pas n'importe quel exemple, puisque c'est une des formules qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Donc, on est dans la zone de texte. Donc, si je vous dis ça, soyez comme des enfants, je ne vous dis pas soyez des enfants, bien que je vous le dise quand même implicitement, enfin, bien que je vous dise implicitement non pas soyez des enfants, mais je vous dis vous l'êtes. Vous ne l'êtes pas, pardon. Vous êtes adulte. J'introduis une différence dans votre conduite d'être adulte, qu'en même temps, donc, implicitement, je dis que vous êtes. De la même manière, si je vous dis soyez libre comme un non libre, parce qu'il y a un autre texte de Paul, hein, où il y a d'autres exemples pour le comme non. Si je vous dis soyez libre comme un non libre, ou soyez grec comme ne l'étant pas, comme non, je relativise la différence entre liberté et esclavage. Hein, soyez libre comme les esclaves. Je relativise la différence entre liberté et esclavage. Je ne change pas les statuts extérieurs. Vous êtes toujours soit libre, soit esclave. Mais que vous soyez libre ou esclave, vous n'êtes plus libre seulement et esclave seulement. Je relativise la différence. Je relativise la différence entre liberté et esclavage, ou je relativise la différence entre être et ne pas être grec. Etc., etc., hein. Je vous laisse au contraire supposer qu'un esclave n'est pas tout esclave, ni un homme libre tout libre, ni un grec tout grec. Bref, alors ça c'est moi qui ai introduit ce mot, pas du tout historique et pas du tout agorbénien, j'étrangéise les catégorisations à partir desquelles tel ou tel humain est appelé et où il se trouve rangé. Hein? Alors, si je dis « soyez grec comme non », je relativise la catégorie « être grec » à partir de laquelle vous êtes rangé. Vous êtes grec, c'est-à-dire vous êtes dans la case grec. Voilà. Je la relativise là où pourtant vous êtes appelé. C'est-à-dire être appelé, ça veut dire à quel nom on répond. Je suis appelé. À quel nom je réponds Es-tu français? Oui, oui, je réponds oui. C'est moi qu'on appelle quand on dit... voilà. Donc je suis casé par cette appellation. Je suis casé par cette appellation, je suis rangé par un certain nombre de noms qui m'appellent et dont je pense qu'en effet ils m'appellent. Alors, la phrase de Paul sur le comme non revient à dire, revient à introduire, je vais lâcher le mot qui cette fois est celui d'agromène, une tension dans l'appellation. Moi, je dis, parce que ce verbe m'importe de plus en plus, je l'en dois évidemment à Brecht, hein, étrangéiser les catégories ou les catégorisations à partir desquelles tel ou tel humain est appelé et où il se trouve par le fait même de son appel, son appellation rangée. Pour Agamben, le « comme » dans le « comme non » est, je cite, un tenseur de type spécial, c'est-à-dire qui ne tend pas le champ sémantique d'un concept vers celui d'un autre. C'est-à-dire, si je dis « vous êtes grec comme non », je ne dis plus qui vous êtes. Je ne dis plus tout à fait qui vous êtes. Vous êtes grec comme non. Mais il n'y a pas une catégorie de substitution. Alors comment je m'appelle? Je ne réponds pas. Tu es grec comme non. Bon, donc il y a une tension qui est introduite dans l'appellation de qui que ce soit, par quelque nom que ce soit. Bon. Donc il y a évidemment les questions qui viennent derrière, c'est comment on s'y reconnaît, comment je me reconnais dans toute cette affaire. Bon. Donc le comme dans le comme non est un tenseur de type spécial, c'est-à-dire qui ne tend pas le champ sémantique d'un concept vers celui d'un autre, mais le met en tension avec lui-même sous la forme du comme non. Fin de citation. Cette tension, ajoute Agamben, ne va donc pas, je cite encore, ne va donc pas vers un ailleurs, ne va pas vers un ailleurs. Regardez, on ne change pas le monde. Cette tension ne va pas, non, on ne change pas les appellations avec lesquelles on classe le monde. Cette tension, ajoute Agamben, ne va donc pas vers un ailleurs, elle ne s'épuise pas non plus dans l'indifférence vis-à-vis de quelque chose et de son contraire. Donc c'est page 47. En fait, ce qu'elle concerne, la tension qui s'introduit désormais, ce sont des vocations. Alors je joue sur les mots. Vocare en latin, appelé. Hein, la vocation. Voilà. À quoi suis-je voué en tant que sujet? Moi j'étais petit, on m'a voué. Tu seras, quand tu seras grand, d'abord tu t'appelles comme ça, tu es français, tu es un garçon, etc. Et tu es voué à me prometter un avenir dans lequel je me suis peu ou prou inscrit. Soit que je l'ai adopté pour mon compte, soit que j'en ai divergé, mais de toute façon c'est par rapport à ça que je me suis situé dans le monde, que je me situe toujours dans le monde. Hein. Donc, ce que concerne la tension introduite par le « comme » du « comme non » d'après Agamben dans le texte de Paul, ce sont des vocations, des appels et des appellations dont il s'agit désormais d'user comme n'en usant pas. Hein, j'ai lu la dernière expression du texte de Paul, hein, « user comme n'en usant pas ». Il s'agit d'user des appellations, des vocations, des appels comme n'en usant pas. Voilà ce qui se passerait au retour de l'expérience de l'urgence. Dans certains textes qui commentent cette dernière expression « user comme n'en usant pas », qui a une longue tradition de commentaires, dans certains des textes donc, qui commentent cette expression, elle est comprise comme signifiant, ça tombe quand même, si vous vous rappelez de la première séance, « user sans abuser ». Les commentateurs de ce passage de Paul, en particulier au Moyen-Âge, ont dit « Ah, mais ça, c'est allusion au droit de propriété, usé sans abus. » Vous vous souvenez de j'avais fait une petite excursion par cette expression en commençant le séminaire. Autrement dit, certains textes qui commentent le propos de Paul que je vous lisais il y a quelques minutes disent que ce texte met en cause la formulation romaine du droit de propriété. Il s'agirait alors de penser que nul n'a rien absolument en propre, pas même les noms par lesquels il est appelé et s'admet comme appelé. Nous reviendrions au monde avec l'idée qui nous met en tension, avec nos propres vocations, appellations, etc. Et si on admet que peu ou prou est mis en cause là-dedans, la définition romaine du droit de propriété, alors ça voudrait dire je n'a plus rien en propre. Je ne suis plus rien en propre. Voilà. Pas de propriété. En tout cas, pas quelque chose qui puisse s'extirper d'un certain degré d'usage. Rien, nul nom ne définirait suffisamment et entièrement personne. Rien, nul nom ne définirait suffisamment et entièrement personne. Si l'attribution de chacun à des cases et à des droits exclusifs n'est pas pour autant toute révocable, je suis en train de me rapprocher du commentaire d'Agamben qui d'ailleurs, très curieusement, dans ces deux pages-là, fait deux fois venir sous sa plume le mot « urgence », sans que je comprenne bien pourquoi, mais donc il doit quand même y penser, hein. Si l'attribution de chacun à des cases et à des droits exclusifs n'est pas pour autant toute révocable, puisque dans le comme non, on continue, hein, soit grec comme non. Hein, donc tu es quand même casé grec, donc il n'y a pas de révocation absolue de l'être grec. Ça continue. Voilà. Si l'attribution de chacun à des cases et à des droits exclusifs n'est pas toute révocable ou révoquée par l'expérience de l'urgence, du moins se trouve-t-elle inquiétée. Hein? Inquietus en latin, pas tranquille, non tranquille. C'est-à-dire plus la personne qui revient personnellement de l'expérience de l'urgence ne peut plus être que de manière inquiète dans le monde, pas tranquille. Il n'y a plus d'appellation, de vocation, de cases. On ne peut pas à la fois ne plus être casé, appelé, etc. Et en même temps, comme nom, aucune appellation case ne paraît suffisante. Convenir, en propre. Je ne suis plus dans les conditions d'être proprement appelé, de me sentir proprement appelé. Alors, pour ma part, je peux, sur cette base, commenter un mot et un verbe auquel Agamben, pour sa part, fait un sort, mais auquel je me suis intéressé pour d'autres raisons, parce que le verbe que je veux dire, on le trouve plusieurs fois dans les textes de Paul, et la tradition ne les traduit pas de la même manière, et je me suis demandé pourquoi. Et pourquoi ce même verbe n'est-il pas traduit de la même façon ? Et j'ai cherché, est-ce que je pouvais trouver une traduction qui serait la même pour les différentes occurrences de ce mot, qui est par ailleurs un mot employé par d'autres auteurs grecs. On le trouve chez Xénophon, on le trouve chez Aristote, etc. Et il y a toujours un problème de traduction de ça. La crésis ou le crésaille, par traduction dans le texte que je viens de citer, de l'Épître aux Corinthiens, l'usage et le faire usage. User du monde, se servir des choses dans le monde. Il s'agirait, dans l'idée que j'ai pour traduire ce mot et ce verbe, non pas de s'abandonner à l'ordonnancement des usages et des utilités, mais de s'y prêter seulement et de n'y être que relativement. Donc s'y prêter, se prêter à quelque chose, se prêter au monde. Le converti tel que je le comprends, qui revient, qui ressort de l'expérience de l'urgence, il ne s'abandonne plus au monde, comme non, etc., puisque comme non, il s'y prête seulement. Se prêter, ce n'est pas se donner. Voilà. Alors, il me semble qu'avec ce prêter, j'arrive à traduire les textes de Paul, où je retrouve le même mot que souvent on ne traduit pas de la même manière. Se prêter, n'y être au monde que relativement. Peut-être que c'est ça qu'on gagnerait. On serait plus tout dans le monde, tout soi dans le monde, suffisamment casé. On ne serait plus que relativement à quoi que ce soit. Inquiet, tendu, comme non. Cela implique, me semble-t-il, moins de désactiver la puissance des opérations menées dans le monde que de considérer toute possibilité d'être, y compris les plus faibles, comme imparfaite dans son activation même, c'est-à-dire dans sa mise en œuvre. Voilà. On reviendrait en considérant que même les plus petites opérations mises en œuvre, menées dans le monde, sont imparfaites dans leur activation même. C'est-à-dire, c'est plus la puissance qu'on met en question, la puissance d'être ou le pouvoir-être qu'on met en question. C'est l'activation qui serait toujours imparfaite. C'est-à-dire que je vais localiser notre attention, si vous voulez, au fur et à mesure du temps qui passe, des séances qui viennent, sur non pas les... Je ne sais pas comment dire ça. Dans la tradition d'Aristote, vous avez la puissance et l'activation, la dynamique traduite par puissance, et puis en ergon, en œuvre, mise en œuvre. On peut supposer toujours que la mise en œuvre se justifie d'une possibilité, d'une puissance, d'une dynamique de mise en œuvre. Et on s'intéresse à la dynamique. Je vais m'intéresser au fait même de la mise en œuvre, y compris les plus petites. Voilà. Et je pense que c'est là que va porter le comme non pour moi, que je vais essayer de faire porter le comme non tel que j'essaye de vous le faire à peu près entendre comme je peux ce soir. Il me semble que dans cette perspective ou dans cette hypothèse, je déplace l'interprétation d'Agamben. Il ne s'agit pas de soutenir, comme dit par ailleurs Agamben dans un autre texte, des moyens sans fin. Il va s'agir pour moi d'interroger la pertinence même de la notion de moyens. en cause, par conséquent, non pas un ne pas faire, non pas un se retenir de faire, mais l'idée d'un faire mieux. Je pense que ce qui pourrait nous inquiéter, ce ne sont pas les puissances, mais les opérations. Et par conséquent, la perspective, ça ne serait pas de se retenir de faire parce que ce que nous aurions à l'esprit en puissance, en perspective, ça serait mauvais. Non, ce sur quoi nous allons petit à petit porter l'attention, c'est pas l'idée que le mieux, ça serait de ne pas faire, de se retenir de faire. Et ce sur quoi il faudrait qu'on porte l'attention, c'est sur l'idée que on peut faire mieux. Voilà. Mais, excusez-moi, c'est compliqué, hein, mieux faire, je n'entends pas par là agencer mieux qu'à présent. C'est pour utiliser un mot que j'ai déjà employé et qui donc me semble essentiel, c'est mieux faire, ça n'est pas agencer mieux qu'à présent, c'est étrangéisser l'agencer même. Voilà. Je pense que c'est là qu'il faudra qu'on fasse porter notre attention. Le converti, j'y reviendrai, persiste à opérer dans le monde, il continue à aller et venir, je le dis tout à l'heure, dans le monde, mais sans être certain de l'assignation de ses opérations à un bien. Il n'est pas plus certain que ces opérations sont assignées à un bien qu'il n'est certain que les opérations qui se mènent dans le monde sont assignées à un mal. Voilà. Il n'est pas certain de l'assignation de ces opérations à un bien puisqu'aucune assignation ne lui semble plus suffisamment désignée. Alors, c'est un paradoxe. Je ne sais pas si j'en fais pas trop. Je pense que petit à petit, ça sera plus clair. Je pose tout un gros paquet de choses ce soir sur la table. Il y a un paradoxe, je me suis trouvé confronté à ça en préparant. C'est que faire mieux, ça ne veut pas dire nécessairement faire bien. C'est-à-dire, si c'est pire, que vous faites moins pire, c'est toujours mal, mais c'est quand même mieux. Compliqué. Voilà. Donc, l'enjeu, c'est ça. C'est pas de faire le bien comme si on savait ce que c'était. Parce que si on savait ce que c'était que le bien, alors Paul ne dirait pas comme non. Il dirait ce qu'il faut être. Il le dit pas. C'est ça que commente Agamben. Et moi, je le commente à ma façon. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien de bien qu'on puisse désigner comme étant une perspective, comme affaire. Voilà. La seule chose qu'on peut dire, c'est que sur le faire, il faut faire porter une tension et se demander si on peut faire mieux, ce qui, j'insiste, ne veut pas dire pour autant faire bien. Donc le converti persiste à opérer dans le monde sans être certain de l'assignation de ses opérations à un bien, puisque aucune assignation ne lui semble plus suffisamment désigné. Il en va d'une sorte de modestie dans l'opéré qui est évidemment difficile à soutenir. Voilà. Qu'est-ce que tu fais maintenant que tu as la foi, que tu es... Pas grand-chose. Voilà. Alors, viens répondre ça. Je ne suis pas en mesure de changer le monde, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'en viens là, donc vous allez me sortir bientôt. Ah bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Ben non, voilà. Et c'est peut-être ça qu'il faut arriver à soutenir. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais en tout cas, dans ce pas grand-chose, du mieux est possible. Voilà. Qui n'est pas forcément le bien. Au sens où on saurait ce que c'est que le bien. Donc, je vais soutenir ça de plus en plus. Il en va d'une sorte de modestie dans l'opéré qui est donc évidemment difficile à soutenir. Nous avons à penser, et donc j'y reviendrai par la suite, que le mieux faire serait un faire. Alors qu'est-ce que ça serait ce mieux faire, hein, et dont l'objet même, la perspective même, le bien, n'est pas certaine. Voilà. Qu'est-ce que c'est que mieux faire quand on n'a pas de certitude sur la perspective du faire. Eh bien, ça pourrait être, par exemple, faire de part en part sans subordination. En nous passant par conséquent pas par des moyens qui sont peu ou prou pour plus importants qu'eux. C'est mon désaccord avec Agamben, moyens sans fin, c'est toujours des moyens. Mais, alors, bien sûr, il essaye de nous faire penser des moyens sans fin. Mais est-ce qu'on peut se débarrasser de la notion même de moyen, c'est-à-dire considérer le moyen, c'est toujours. Est-ce qu'on peut penser le moyen sans penser qu'il y a au-delà du moyen quelque chose qui va venir ? Voilà. Est-ce qu'on peut penser, alors donc on va subordonner le moment présent au moment qui vient ? Est-ce qu'on peut penser sans ça ? Est-ce qu'on peut penser un faire sans perspective, voilà, qui serait attentif à son opération même, aussi petite soit-elle. Le faire mieux, dont je vais essayer de parler de plus en plus, est un faire qui n'est pas assuré de s'achever bien. Donc il y a une fragilité, c'est pour ça que je parlais de modestie, hein. C'est un faire fragile, il n'est pas assuré de s'achever bien, pas sûr que ça va bien se finir, et il n'est pas assuré d'être finalement lui-même un bien-faire. Voilà. Il faut faire dans la tension du faire, faire comme non, c'est-à-dire, il faudrait penser ça, faire comme non, c'est-à-dire faire dans la tension même du faire, sans être sûr que ça va bien s'achever, et que même ce qu'on est en train de faire, ça soit un bien-faire, un faire bien. Il en va, me semble-t-il, d'un pouvoir être incertain dans le faire même, dont je ne peux dire pour le moment que ceci. Ce faire n'est dans aucun de ces moments une réponse ajustée à une discipline et ou à une commande extérieure, c'est-à-dire il n'est dans aucun de ces moments un moyen. Plus précisément, il procède de l'exercice d'une capacité qui se découvre au cas par cas et qui ne correspond que de manière tendue, donc imparfaitement, aux vocations et aux appellations commanditaires d'où qu'elles viennent. Faire mieux, c'est exercer une capacité qui ne se sait pas elle-même, qui ignore sa propre puissance, voilà, et qui ne correspond que de manière tendue, imparfaite, qui ne va pas au bout, aux vocations et aux appellations commanditaires. C'est-à-dire qui traite toute commandite, si vous voulez, comme non. Il est tard. Je pensais être court, ben c'est pas le cas. Hein. Je pense que ce que j'ai là, c'est trop, hein, c'est beaucoup trop. Je pense que ça, je pense que c'est peut-être mieux si moi ça se conclut pas comme j'avais imaginé. Mais je pense qu'il faut qu'on discute là maintenant, parce que sinon vous allez finir épuisé. Il y aura plus personne la prochaine fois. Non, c'est trop. Je peux pas résumer ça. Non, c'est pas possible. Bon, et ben, discutons sur cette base. Oui.
Je me demandais dans quelle mesure cette forme un peu spéciale d'agir que vous, d'opération que vous décrivez, elle appelle une forme de jeu, en fait, parce que finalement, en vous écoutant, je me disais que la posture ludique, en fait, elle correspondait à pas mal de critères de cet agir qui est opéré parmi des conditions de possibilité et pas parmi des causes. C'est une bonne définition de ce que c'est que jouer. Faire comme si, c'est également une bonne définition du jeu. Dans le jeu, la logique de moyen, elle est pas apparente. Enfin, il y a pas de question de moyen ou de fin dans le jeu. Enfin, d'agir modeste, attentif à ses propres puissances d'agir, c'est finalement une capacité. Alors, jouer, je sais pas, se jouer des catégories, de relativiser, d'étrangéiser. Est-ce qu'en sous-jacent, alors, c'est sans doute pas du tout la lecture d'Agamben ou...
Bah, ce que vous me dites, c'est que...
C'est playful, en fait. C'est d'avoir une disposition un peu playful face... Ouais.
Parce que ce que vous me dites, je peux l'entendre en disant, bon, c'est pas du tout une critique naturelle. Est-ce que vous étiez là à la première séance ?
Oui, pas à la première.
Donc j'avais essayé de prendre des distances avec la notion de jeu chez Agamben, et donc vous m'y ramenez, quoi, en me disant, d'une certaine manière, que j'ai pas bien fait de m'écarter de la notion de jeu, qu'en réalité, je suis toujours dedans. Voilà.
Une déformation, mais moi c'est un peu incertain.
Je vais réfléchir, c'est-à-dire peut-être vous avez raison. Je vais peut-être quand même, me décaler sur. Alors je pensais à deux choses en vous écoutant, mais j'en ai plus tout de suite qu'une présente à l'esprit. Peut-être la deuxième va me revenir en parlant. C'est que si vous permettez que je relève quelque chose que vous avez dit, vous avez, et je pense que c'est pas complètement par hasard. Vous n'avez pas dit comme non, vous avez dit comme si. Voilà, alors le jeu, c'est comme si, on fait comme si, etc. Mais ce n'est pas ce que dit exactement le comme non. Voilà. Je me trouve confronté à cette difficulté. Il ne dit pas faites comme si.
Voilà. Faites comme si non.
Ben, je ne sais pas. Comme si ça serait vous êtes grec, faites comme si vous étiez hébreu. Il dit pas ça. Il dit soyez grec comme non. Donc il désigne pas ce contre quoi on pourrait échanger la situation actuelle. Donc s'il n'est pas désigné, parce que de toute façon les désignations sont problématiques, ce contre quoi on pourrait échanger la. Si on pouvait désigner ce contre quoi on peut échanger la situation actuelle, on serait dans la logique stratégique, militante, etc. On désignera le bien, on dira « soyez ceci ». Mais justement, ça, même Agamben, qui par ailleurs parle du jeu, le relève très très bien, je pense, d'ailleurs c'est à lui que je dois d'être attentif à toutes ces questions, il relève très très bien qu'il n'est pas dit... ce qu'il faut être, ce que dans mon commentaire trop compliqué, comme toujours, de ce soir, j'essaye de faire comprendre en disant le bien n'est pas désigné. Et il faut faire dans le monde, alors qu'on est passé par une drôle d'expérience bouleversante, etc., il faut faire dans le monde sans avoir pour autant, sous prétexte qu'on serait ressorti de l'urgence, de l'expérience bouleversante, etc., la notion du bien à faire, hein, et donc il faut faire comme non, et je n'arrive du coup moi en tout cas à trouver comme localisation de ce comme non pour répondre un petit peu quand même à la question qu'est-ce que faire dans l'urgence, hein, mais qu'est-ce qui reste, sur quoi peut porter le comme non, c'est pas le but de l'opération, si j'ose dire, c'est pas c'est le fait même de faire quoi que ce soit. Ça va charger chacun d'entre nous, quelque faible que soit sa case opératoire, la petitesse de son champ d'opération possible, ça va le charger d'une sacrée responsabilité qui n'est pas dans les buts, pas dans les perspectives, mais dans le faire lui-même. Et est-ce qu'on peut penser ce faire-là comme un jeu ? Je n'y arrive pas. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Hein. Voilà. Je n'y arrive pas. Et je pense que j'aurais... Enfin, à l'heure qu'il est, dans l'état où on est, sous bénéfice de vérification après coup, je dirais que je mettrais. Alors, vous allez me dire, c'est pas incompatible avec le jeu. L'enfant, quand il joue sérieusement. Mais le faire comme non, là, c'est un faire qui va mettre en tension toutes les commandites du faire. Tout ce qui peut commanditer un faire. Le pourquoi tu fais ça. Pour se concentrer, avec ce que ça veut dire d'attention, sur le fait de faire. En fait, c'est à ça qu'on ne fait pas attention dans le monde, et c'est peut-être pour ça qu'il va mal. C'est que on s'intéresse aux motivations, on s'intéresse aux buts, etc. Alors les motivations, c'est avant qu'on fasse, les buts, c'est après, et le faire lui-même. Est-ce que c'est indifférent qu'on fasse comme ça plutôt que comme ça? Voilà. Dans bien des analyses du faire, la réponse est oui, pourvu que le motif soit généreux et la perspective bonne. Et je lis ces textes en me disant, ce sont des textes qui nous invitent à ne pas penser aux motifs et aux perspectives, mais au fait de faire. Et alors, dans le fait de faire, il peut y avoir plusieurs manières. Et peut-être le tout est de ne jamais considérer qu'il y a une manière parfaite de faire le faire. Je pourrais faire de la polémique un peu stupide et dire, j'ose pas, mais enfin, je veux dire, peut-être que c'est un des problèmes de l'ingénierie depuis, la fin du 18e, que de se présenter dans la conception de ce que c'est que faire avec l'idée qu'il y a un faire parfait. Voilà. Et on répond à ça en disant, c'est ça qui nous met dans l'urgence. Aujourd'hui. Et donc, il faut regarder les marges, je ne sais pas comment dire ça, dans le fait de faire. C'est ma proposition.
Je trouve que c'est une excellente définition de la posture ludique. Alors, peut-être plus oui, que je jouer de du ludique, quoi. De prendre le faire pour le faire, ou le fait de concentrer sur le fait.
Il y a quand même quelque chose, vous venez de dire de la marge, on pourrait dire du jeu, ce serait synonyme, enfin, qui a un autre sens de jeu, mais c'est quand même le même mot, donc il y a quelque chose avec ça.
Ben, je vois bien, oui, je vois bien que vous...
Est-ce que ce faire-là, il peut... instaurer un peu de jeu avec les moyens, ou est-ce que c'est un faire qui a réussi à vraiment se débarrasser des moyens ou de la commande ou des projections?
À la formule d'Agamben, moyen sans fin, là aussi, sous réserve que je revienne sur ce que je vais vous dire, parce que bon, je dirais que j'aurais envie de rétorquer à moyen sans fin. S'il faut parler avec ce vocabulaire, j'aimerais mieux essayer, moins à titre d'hypothèse de travail. Est-ce qu'on peut arriver à parler d'un faire sans ces mots-là? Bon, ça va être sûrement très difficile, mais c'est un peu le pari, quoi. Est-ce qu'on peut... Mais si on n'y arrive pas, alors je dirais que peut-être mon hypothèse, c'est de penser que la fin est dans le moyen même. Ça a des conséquences sur la façon dont on éprouve le temps de faire. Voilà. Puisque si la fin est dans le moyen, elle est à tout instant présente. À tout instant, elle est là. Autrement dit, tous les instants sont aussi importants les uns que les autres. Alors vous allez me dire, c'est ça que j'appelle le jeu.
Et on trouve un peu cette idée-là aussi dans un texte d'Agamben au sujet de l'origine. Je ne sais pas si tu l'as en tête.
Rafraîchit ma mémoire si jamais je l'ai en tête.
Dans lequel il dit, il me semble que l'origine, c'est pas quelque chose qui se trouve au début,
oui.
Mais que c'est quelque chose que dès lors que ça s'absente, ce de quoi c'est l'origine disparaît aussitôt.
Parce que vous m'invitez à penser quand même comme je, ce que je n'arrive pas à penser comme je. Donc je vais faire des efforts.
Mais je trouve peut-être qu'il y a une différence avec le jeu. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par jeu. Mais en tout cas, dans un jeu, on incarne quelqu'un d'autre, par exemple. Enfin, on peut éventuellement incarner quelqu'un. Et donc, la vocation, elle est définie. Alors ça dépend de quel jeu on parle, mais on peut... Il y a des... Donc, dans ce que tu proposes, il ne s'agirait pas d'incarner quelqu'un d'autre qui on est, par exemple. En tout cas, il ne s'agirait pas d'occuper une autre position que la nôtre, ce qui est quand même le cas de... C'est-à-dire, quand on fait comme si, même si c'est joué, même si c'est pas un jeu de rôle, mais même si c'est faire comme s'il y avait des limites qui n'existent pas, faire comme si... Alors que j'ai l'impression que dans ta proposition, il ne s'agirait pas de changer du tout de position. Il s'agirait d'être...
Il y a de ça, c'est-à-dire, je cherche comment le dire. Bon, mais au départ de toutes les phrases compliquées que je fais, ça part de choses extrêmement simples, extrêmement banales. Par exemple, cette phrase, on ne joue pas avec ça. Alors quoi ça ? On ne joue pas avec ça, on ne peut pas jouer avec ça. Vous entendez cette phrase quand même. Il n'y a pas que moi qui l'ai entendue dans mon existence. Hein. On ne joue pas avec le monde, quoi. On ne joue pas avec le monde. C'est quand même, j'allais dire, c'est trop sérieux. Alors, vous allez me dire, mais les enfants qui jouent, ils sont sérieusement dans leur jeu. Mais est-ce qu'on sort de l'enfant sérieusement dans son jeu? Est-ce qu'on peut penser la notion de jeu sans impliquer qu'il y ait un monde et un autre monde, le monde du jeu dans lequel celui qui joue est sans restriction, enfin il y est sérieusement, enfin etc. Mais il y a quand même un autre monde qui n'est pas du jeu. Voilà. Alors on peut dire bah oui, mais la tradition de pensée de Paul et tous ces gens-là, c'est quand même bien de dire il y a deux mondes, hein, le monde et l'autre. Mais moi je fais une lecture, je l'ai dit depuis le début, absolument autant que possible en tout cas, laïque de Paul. Il n'y a pas d'autre monde pour moi. Il n'y a pas d'autre monde. Et donc c'est dans le seul monde qu'il y a que se produit. Alors j'ai dit marge. Étrangéisation, évidemment, c'est moins courant comme mot, quoi, mais il s'agit d'étrangéiser le monde, pas de lui substituer un autre monde, que ça soit bientôt dans une action stratégique et politique, ou que ça soit tout de suite dans une opération ludique. Voilà. Il n'y a pas d'autre monde. Et alors, il faut faire quelque chose dans ce pas d'autre monde qui soit pas qui nous sorte des cases catastrophiques éventuellement dans lesquelles nous nous trouvons.
Je me souviens d'un bout de conversation mais qui peut-être aussi peut t'aider à expliquer ce que tu veux dire. Tu me disais que c'était de conseiller la conduite du chat, donc la conduite joueuse du chat, qu'il y avait quelque chose qui te gênait dans le conseil, enfin si on faisait ce conseil à certaines personnes qui peut-être ne peuvent pas jouer, je me sens, tu m'avais dit, mais on ne peut pas conseiller la conduite du chat à un mineur. Ou ça te gêne qu'on conseille la conduite du chat à un... Donc est-ce que...
Un mineur, c'est un petit.
Non. Quelqu'un qui travaille dans une mine.
J'ai dit ça, moi.
Il me semble bien. Et
oui, c'est-à-dire... C'est une façon... Si j'ai dit ça, c'est une façon d'illustrer la formule. On joue. Il y a des circonstances dans lesquelles on ne joue pas, oui. Donc je pense... je ne sais pas, parce que j'ai fréquenté ça une période de ma vie... Le monde des mineurs, si tu descends dans une vieille mine, etc., on ne joue pas avec ça, quoi. Ça, c'est sûr. Enfin, en tout cas, la première phrase que j'ai à l'esprit, c'est un mineur joueur, il n'y en a pas beaucoup qui remontent. Hein.
Mais il peut faire mieux.
Mais il peut faire mieux. Il me semble qu'on peut toujours faire mieux. On peut faire mieux, ça ne veut pas dire qu'on le fait effectivement. Voilà.
Comment ça, non?
Non, je dis pas non. C'est, je me demande si c'est pas, si c'est pas justifiable de la même approche que vous aviez quand vous disiez que quelque part le scandale n'était pas dans la concentration des puissances, mais dans l'existence de zones d'impuissance, et que précisément le scandale est qu'on ne puisse pas jouer et que un mineur et qu'il soit, il serait scandaleux.
Ah, si vous voulez, ouais, d'accord. Je commence à, ouais, d'accord. Ben, il faut que je réfléchisse. Je vois que je ne vous convainc pas, mais je n'arrive pas non plus moi-même à abandonner ma réticence. Et donc, c'est ça qu'il faut que je cherche. Pourquoi je n'arrive pas à abandonner cette réticence? Mais là, tout de suite, je suis en panne.
Sans vouloir vous embêter, je connais très mal en fait, la notion de Brecht d'étrangérisation, mais... Ça peut pas ne pas avoir de rapport avec le jeu.
Ah, à cause du jeu d'acteur.
À cause du théâtre, oui.
Bon, c'est... étrangérisation, c'est comme ça qu'on dit maintenant pour dire que quand j'étais jeune, on disait distanciation. Alors, distanciation, ça va lui plaire parce que ça va faire jeu, quoi. Mais étrangérisation, c'est alors oui, est-ce que c'est le jeu? Est-ce que c'est le jeu du théâtre dont il est question? Je pense qu'il n'est pas seulement question de ça, avec le concept d'étrangérisation. Alors évidemment, j'avais prévu tout un développement. C'est incroyable, quoi. J'ai dû bavarder énormément autour de ce que j'ai dit, ce que je pensais avoir prévu une séance plus courte, et c'est pire que les autres fois. Mais je voudrais arriver à parler, à montrer, si je peux, que... Enfin, je vais retravailler toutes ces choses dans le sens devenir... comment dire ça, à l'heure qu'il est. Se mettre à exister personnellement, qui serait par hypothèse la conséquence de l'expérience bouleversante, etc. Non. Se mettre à exister personnellement, c'est devenir étranger, au moins quelque part, à ses propres appellations. Donc il y a quelque chose qui est de se voir soi-même, d'une certaine manière, étranger, alors pas à soi, mais à quelque chose qui quand même est de soi. Il y a une espèce de distance intérieure qui va se prendre. Et c'est à ça que je pense quand je dis étrangérisation. Je pense plus à ça que, effectivement, au fait que ça peut être une technique de jeu, au sens du théâtre chez Brecht. En même temps, on est quand même dans ces questions-là, au sens où l'acteur qui... alors, il n'y a pas que l'acteur, l'acteur qui participe à l'étrangérisation ou à la distanciation, etc. Ça c'est bien expliqué dans les textes de Brecht, il ne se prend pas lui-même à son propre rôle. Il est en distance intérieure et c'est ça qui va m'intéresser, quoi, la prise de distance de soi avec soi.
Voilà. Et là, il n'y a pas vraiment deux mondes.
Il n'y a pas deux mondes. Et cette prise de distance se fait dans le seul monde qu'on est. Voilà. C'est-à-dire... que j'ai été bouleversé dans ma vie ou pas, je vis dans le même monde que les autres. Ça, j'ai essayé de le dire ce soir, quand même.
Moi, il me semblait que dans l'étrangérisation, et je ne connais pas directement Brecht, mais Benjamin commentant Brecht, c'était justement un moment où le jeu d'acteur se stoppait. Et on s'apercevait justement de quelque chose, enfin d'une bizarrerie qui faisait qu'on était plutôt tout à fait dans le jeu d'acteur et qu'il y avait quelque chose... Et... Justement, qu'éventuellement, s'il y avait rire ou s'il y avait prise par la narration, ça, les rires s'arrêtaient. Enfin, il y avait une bizarrerie.
Oui, c'est-à-dire que l'interruption, effectivement, c'est, en tout cas dans le commentaire de Benjamin, mais pas seulement, même dans les textes de Brecht, c'est tout à fait capital. Mais ça, j'ai bien ça en tête. C'est-à-dire, en fait, nous cheminons, nous sommes des êtres casés, subjectivés, nous cheminons comme ça dans la vie, pas sans problème, mais sans trop. Parce que sinon, et un accident Alors, j'essaierai de préciser les conditions de l'accident, mais un accident arrive qui interrompt le cheminement. C'est ça, le passage par l'urgence. Voilà. Et cette interruption a comme conséquence non pas de changer radicalement mes possibilités d'aller et venir dans le monde, mais désormais de les éprouver comme non, c'est-à-dire comme toujours quelque part. C'est pas qu'elles sont étrangères à moi, c'est que je suis moi-même, je sais maintenant que je suis moi-même quelque part étranger à moi-même.
Il y a quelque chose, il y a quelques
minutes... C'est la distance intérieure. Quoi. Au lieu qu'on soit... finalement, si j'accepte les appellations, les vocations, etc., et c'est parce que d'ailleurs aussi je les accepte que je peux cheminer dans le monde comme il est. Voilà. Et moment critique, moment bouleversant, voilà que ces appellations, j'y réponds toujours. Je n'ai pas changé de nom, je n'ai pas changé de les qualités qu'on m'attribuait, on peut toujours me les attribuer. Et cependant, je les accepte étrangement désormais. Ça, c'est peut-être quand même une différence avec le jeu, quoi. C'est-à-dire... ou alors non, oui, ce que vous allez me dire, c'est en fait, tu n'as qu'à jouer tout le temps. Être joueur, oui, peut-être. Enfin, je ne sais pas, je vais réfléchir. Je t'ai coupé la parole, pardon.
Non, c'était juste, ça me faisait penser à, au début de... plutôt vers le début de Lettres et du Néant de Sartre, il a un propos sur le garçon de café.
Ah oui, la mauvaise foi.
Non, c'est plus loin sur la mauvaise foi, mais sur le garçon de café, sur le fait qu'il y a une conscience... qui permet d'être garçon de café tout en étant conscient qu'on n'est pas garçon de café. Enfin, chez Sartre, ça recoupe la notion de conscience, d'être un peu à côté de ses appellations et de ses fonctions. Moi, j'avais une question sur un...
Oui, enfin moi c'est.
C'est sur l'impuissance. Sur cette impuissance, est-ce qu'elle pourrait pas, est-ce qu'elle risquerait pas d'annuler tout faire, c'est-à-dire de conduire à une forme d'inertie. Alors je vais être pas du tout conceptuelle, mais beaucoup plus parce que on parle d'urgence, mais il y a une question de l'urgence écologique. Et dans les comportements, si on fait des catégories un peu caricaturales des réactions, il y aurait un comportement qui consisterait à continuer à faire comme si tout allait bien ou à prendre prétexte, comme tu dis, d'une urgence écologique pour avoir des comportements à peine modifiés, mais qui consisteraient à faire toujours, enfin, à faire comme avant. Puis il y a une autre position qui consisterait à agir beaucoup. Et avec d'autres formes de puissance, avec des puissances, et peut-être dans une forme de précipitation. Et puis, il me semble que chez une partie du monde, ça conduit à désespérer totalement. Quoi. Ça conduit même à une révision de l'histoire qui consiste à dire que déjà depuis les Romains, on abîme le monde et qu'en fait, toute présence humaine abîme le monde. Et ça confinerait au fait de ne plus pouvoir exister. Et qu'est-ce qui ferait qu'on garderait un peu d'espoir dans un petit
film
plutôt que de désespérer totalement, quoi.
Alors au train où je vais, pour parler de l'espoir, ça va être l'année prochaine, parce que si au lieu qu'une séance fasse une séance, elle en fait deux. Mais enfin, c'était bien mon idée, quoi, d'arriver à cette affaire d'espérance.
Mais il y a un truc qui ferait qu'on ait un peu d'espoir, quoi.
Oui, mais alors le paradoxe.
On ne désespère pas totalement.
Le paradoxe, c'est bon. Nous ne sommes pas des puissants, nous là, par exemple. Nous sommes des humains parfaitement ordinaires. En tout cas, moi. Et je ne suis pas extraordinaire. Et d'ailleurs, qui l'est ? Il y a que le tout-puissant. Ou celui qui rêverait d'occuper la position de la toute-puissance. J'appellerais ça, par exemple, plus tard, la position théocratique, le pouvoir absolu, etc. Celui qui rêve d'occuper la position de la toute-puissance, ou celui qui, par hypothèse, le serait, qui est divin. Mais le divin, par définition, n'est pas humain. Les humains, en fait, sont impuissants dans le monde. Voilà. Peut-être qu'ils ne veulent pas le savoir, et que c'est ça une partie du problème. Voilà. Et nous... qui sommes convertis, nous essayons de penser le fait de faire, parce qu'un humain ne peut pas ne pas faire, un humain qui ne fait rien dans sa vie, c'est pas possible, il est équipé de ce qu'il faut pour faire, les mains, les fameuses mains, et le cerveau qui va avec, et ben, en fait, il faut qu'on pense ça. En fait, notre tâche, c'est de faire dans l'impuissance même où nous sommes. Voilà. Alors, j'avais pris un exemple dans une conférence qui est pour moi mémorable, parce que c'est un très bon souvenir, Le courage de la pauvreté, hein, ou alors c'est dans le texte complémentaire que j'ai publié par la suite, je ne me rappelle plus, le pauvre, le courage du pauvre, c'est de faire alors qu'il n'a pas auprès de lui tout ce qu'il faudrait pour faire. Et quand même, faire quand même, alors qu'on n'a pas auprès de soi tout ce qu'il faudrait pour faire. Ça, pour moi, c'est la double définition de la pauvreté et du courage. Il y a l'autre qui dira « Je ne ferai que quand j'aurai tous les moyens disponibles. Je cherche à soutenir et à penser ça, le faire pauvrement, le faire dans la pauvreté, le courage de faire dans l'impuissance. Alors que, évidemment, moi je me dis ça tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire, quoi? Je suis débordé par l'ampleur de la tâche. Ben, il faut quand même que je fasse quelque chose.
Et à celui qui inversement désespérerait totalement et finirait presque par se détester lui-même, se détester lui-même.
Se détester.
Il y a une partie de l'humanité qui estime qu'il faut que l'humanité disparaisse.
On
pourrait lui dire qu'il manquerait de courage, quoi.
Je pense que le courage n'est pas du côté des puissants. Évidemment, c'est trop facile. Si tu as toute la puissance, où est le courage? Alors, il y a une définition du courage. Bon, mais ça, pour moi, c'est pas ce séminaire. Mais la définition du courage comme héroïsme, qu'on trouve dans les textes anciens, qui n'est pas que, hein, qui consisterait à dire, finalement, le courage consiste, l'éducation des jeunes guerriers grecs, l'éducation au courage. C'est Socrate qui a introduit la question. Ah, mais vous dites, là... c'est un des premiers dialogues de Platon, mais vous dites tous là sur l'agora, il faut que nos garçons soient courageux. Alors, ils disent pas, c'est plus chic, hein, je traduis, il faut que nos garçons soient courageux. Ah oui, ça c'est une bonne idée, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste courage? Alors ils discutent, et puis en fait il n'y a pas vraiment d'accord, sauf que personne ne doute que le courage, la manière d'y arriver, on ne sait pas. Ce que c'est au juste, on ne sait pas. Mais personne ne doute que le courage soit une propriété des garçons appelés à faire la guerre, c'est-à-dire à devenir des héros dont le nom sera perpétué au-delà de leur mort. C'est-à-dire se rendre glorieux par une action héroïque. Ça serait ça, le courage. Personne n'en doute dans le dialogue. Voilà. Mais c'est ça le problème, que personne n'en doute que le courage, ce soit ça. Alors que le courage... Pour moi, c'est Antigone, hein. Donc avant Platon. Le courage, c'est le fait de faire alors même qu'on n'a pas les instruments du pouvoir de faire. Et ça, c'est le pauvre. Et bien, c'est nous. Enfin, ceux à qui je peux parler, en tout cas. Je ne peux pas parler aux puissants de ce monde. Je ne suis pas dans la situation de m'adresser aux puissants de ce monde. Et d'ailleurs, je ne le désire peut-être pas. Et donc, il va falloir, nicher de l'espoir là-dedans. Et que l'espérance, en fait, se trouve là-dedans. C'est ça que j'essaye de soutenir. Je n'arrive pas à voir s'il y a des questions.
Pour l'instant, non.
Ah, pardon.
Alors moi j'avais une question, mais sur les, alors que j'ai retrouvé la feuille, mais sur les causes et conditions de possibilité. Est-ce que les conditions de possibilité, elles peuvent se favoriser?
Elles peuvent se favoriser.
Oui, il peut y avoir quand même des situations favorables.
Alors, est-ce que je comprends bien la question ? Est-ce qu'il y a des conditions favorables ? La réponse est oui sur le plan logique. C'est-à-dire une condition, les conditions de possibilité, c'est ce qui, c'est les conditions qui sont favorables à ce que quelque chose éventuellement advienne. Mais si la question c'est est-ce que je peux quelque chose pour les conditions de possibilité ? Je n'en sais rien. Il se peut que de ce que je fais dans le monde résulte par je sais pas comment il faut dire ça, par capillarité, à ce que ça modifie les conditions du monde. Mais je n'en sais rien. Je ne sais pas quelle est la conséquence de ma présence au monde. J'espère que de ma présence au monde et de ma capacité à faire dans l'impuissance, il va résulter des conditions meilleures.
Parce qu'il peut y avoir des actions militantes, effectivement, contre lesquelles tu t'es prononcé, enfin, ouais, donc contre lesquelles tu t'es prononcé, mais par exemple, éveiller des consciences.
Moi, je ça c'est tout.
Même pas.
Bah, éveiller les consciences. Ah oui, c'est parce que tu penses à, alors qu'est-ce qu'on fait en tant que prof, éducateur
Oui, ou même dans une conversation sur la dissuasion, c'est-à-dire dire en fait, est-ce que je vais convaincre, dans le cas d'une rencontre intellectuelle ou amoureuse, est-ce qu'on dissuade l'autre de se confronter à l'accident et de la pression ou pas, et à un moment il peut y avoir quand même une fonction de la parole. À quel moment dissuader l'autre, c'est priver d'une liberté aussi, enfin je me posais ces questions là hein.
Si on analyse ce que c'est qu'une rencontre, je pense qu'on peut dire, alors il y a Badiou, il y a là, je suis en train de lire le livre de Claude Romano, comment est-ce qu'il appelle son livre, L'expérience et le temps, enfin je ne sais plus, il y a beaucoup de belles pages sur la rencontre. Aucun sujet ne peut se positionner, si j'ose dire, comme cause d'une rencontre. Il faut deux pour qu'il y ait une rencontre. Et aucun des deux n'est la cause de la rencontre. La condition de la rencontre, c'est qu'il y ait deux. Aucun des deux là-dedans n'est la cause de la rencontre. C'est-à-dire, je ne peux pas être rencontré par quelqu'un dont j'aurais provoqué, dont j'aurais voulu penser que je pouvais provoquer la rencontre. Dans ce cas-là, elle sera manquée. C'est-à-dire, il arrive qu'il y ait des rencontres. Mais il arrive que des consciences s'éveillent. Voilà. Je peux être l'occasion de l'éveil d'une conscience, mais pas la cause. Je peux, dans mon enseignement, être l'occasion de l'éveil de conscience, mais je n'en suis pas la cause. Si je n'étais pas passé par là, tel ou tel n'aurait pas appris ce qu'il a appris par mon fait, par mon biais. Mais ça ne veut pas dire que je suis la cause de son apprentissage.
Mais la cause, mais quand même, il y a des conditions de possibilité favorables. Je peux aussi ne pas venir en cours.
Je participe, je se trouve dans les conditions. Mais ça ne veut pas dire que, parce que je se trouve dans les conditions, que les conditions sont à la disposition de je.
Mais il y a quand même des conditions favorables. Parce que je peux, par exemple, choisir d'être enseignant ou choisir de faire autre chose.
Enfin, conditions favorables, il me semble, sur le plan logique. Dès lors que tu dis conditions favorables. C'est un pléonasme. Oui, ça sous-entendrait qu'il y a des conditions défavorables. Mais s'il y a des conditions défavorables, ce ne sont pas des conditions.
Voilà. J'ai une question un peu bête, sur le même point. C'est, j'ai compris comment ce qui arrive n'a pas de cause, comme par exemple Cézanne, mais du coup, j'arrive pas à trouver un exemple de quelque chose qui aurait une cause, qui serait avec cause.
Quelque chose qui aurait une cause.
Oui. Quoi, par exemple, est avec cause ou une cause.
Eh bien, je ne sais pas, moi, si... je ne sais pas pourquoi, je pense à un exemple mécanique. Ça n'existe plus, hein, les vieux carburateurs dans le temps, dont les... comme ça, je ne sais plus, dans cette petite pièce par où passait l'air, une poussière se met dedans, le carburateur ne peut plus envoyer le mélange gazeux au moteur, donc ça tombe en panne, etc. Et là, c'est un jeu de cause et d'effet. La panne de la voiture, le moteur qui s'arrête, il y a une cause à ça qui peut être déterminée, éliminée.
Est-ce que ce ne serait pas aussi...
Il y a d'autres façons.
Pardon. Non, je pense à la différence entre l'évolution et l'histoire. Est-ce que ce ne serait pas à partir aussi de la distinction entre conditions et causes que
tu
ferais la différence?
C'est une de mes hypothèses ou une de mes les choses qui me travaillent l'esprit, effectivement, c'est que peut-être l'évolution peut se comprendre en termes de relations causales. Mmh. Et une histoire, l'historicité, non. Et c'est pour ça que je pense à un article, je dis ça parce qu'on m'a, pour une fois, m'a envoyé un courrier à propos d'un article que j'ai fait. Et ça tombe là-dessus, c'est-à-dire la différence entre l'écologie et l'économie. Écologie, comme dit le logos, hein, ça suppose que l'oikos soit un système causal, avec des relations qu'on peut expliquer de cause à effet. Si tu supprimes, s'il y a trop d'azote, alors tel organisme va périr. C'est logique, c'est un système causal. L'économie, il faut faire l'histoire de tous ces mots, bien sûr, mais l'économie, c'est ouvert à l'historicité, c'est-à-dire à des justices et à des injustices, à de l'utile ou du nuisible, pour reprendre les formules d'Aristote. Et ça, ça définit des conditions de vie et pas des circonstances systémique.
Des conditions d'existence.
Oui, ou des conditions d'existence, oui. Oui, j'ai
même
dit conditions.
Plus que de vie, non ?
Oui, d'accord. Oui.
T'as toujours pas de.
Non. Je me demandais, j'ai l'impression que oui, mais est-ce que la conversion est irréversible ?
Ah. Est-ce que la conversion, est-ce qu'on pourrait avoir deux bouleversements dans la vie ?
Revenir en arrière, finalement, revenir dans le déni, parce que finalement, c'était plus confortable.
Alors, je ne m'attendais pas du tout à cette question. Je pense que chez Paul, elle n'est pas envisagée. Enfin, je peux chercher d'ici 15 jours s'il y a des textes, mais je ne vois pas. C'est-à-dire... C'est un événement radical, enfin un bouleversement sur lequel il n'est pas fait retour. Voilà. Alors là, la réponse serait plutôt que non. On ne revient pas dans l'état d'avant. En revanche, peut-être on pourrait dire qu'on est plus ou moins fidèle. Alors, fidèle, c'est la même racine que foi, que la foi implique fidélité. C'est-à-dire, si on revient avec la foi, ça implique la fidélité à l'événement. Et peut-être ça, comme nous, hein, on ne change pas tout à fait l'être qu'on était. Et donc, il se peut que cet être ne soit pas aussi fidèle qu'il faudrait à sa propre expérience. Ça, je pense qu'on peut l'envisager dans le cadre de pensée paulinien. Qu'on ne tienne pas, non seulement on peut, mais là, maintenant, je repense à des choses, oui, je pense qu'il répondrait ça, oui. C'est-à-dire que l'homme ne devient pas bon parce qu'il a fait l'expérience, il continue à être dans l'humanité qui n'est pas bonne. C'est pour ça que je le dis autrement ce soir, en disant faire mieux, c'est pas être sûr de faire bien. On ne sait pas. Et à la fin, alors j'avais prévu que c'était la sixième séance, mais au train où ça va, ça ne sera pas la sixième, parce que j'arriverai pas au bout. Mais pourtant, j'allais dire que c'était là que je voulais en venir. cinq lignes de Paul que je veux retraduire, que j'ai retraduites, parce que je ne suis pas du tout... j'ai trouvé aucune traduction qui me paraissait convenir. Et en fait, il dit ça, quoi. Il dit, mais c'est au fond, c'est pas parce que vous êtes devenu croyant, converti, etc., que vous êtes devenu bon. Voilà. Et donc, tout ce que vous pouvez vous promettre, c'est d'être mieux. Et ça m'intéresse beaucoup, cette formule, parce que, alors, ça paraît sans rapport avec la profondeur historique que je viens d'évoquer, mais je me suis arrêté, j'ai été arrêté plutôt pour le compte, il y a pas mal d'années de ça, par la petite phrase de Frank Lloyd Wright qui dit « Pourquoi on a besoin de designers pour faire mieux ?» Voilà. Et plus ça va, plus j'interprète cette phrase comme... alors, contre ceux qui attaquent ce qu'ils appellent... le modernisme, comme si Frank Lloyd Wright était dedans, comme si ces gens-là avaient revendiqué le modernisme. Enfin, je passe sur ces choses qui me mettent en colère. Est-ce que Frank Lloyd Wright a jamais pensé qu'il faisait bien l'architecture ? Non. Il a essayé de la faire mieux. Et voilà, toute la nuance. Alors, se faire mieux implique... la fidélité, si on revient cette fois au langage, à une expérience qui, au fond, est radicale. C'est-à-dire, une fois qu'elle a eu lieu, vous pouvez, d'une certaine manière, l'oublier, ne pas y être fidèle, mais vous ne pouvez pas, en fait, l'oublier radicalement.
Mais on peut choisir de l'ignorer.
On peut choisir
consciemment de l'ignorer, mais cette fois avec conscience par rapport à l'état d'avant. On n'avait pas forcément conscience qu'on était dans le déni.
Ignorer consciemment, c'est une expression, c'est comme le jeu, j'ai du mal à comprendre.
Être de mauvaise foi.
Oui, ignorer consciemment, c'est être de mauvaise foi, mais est-ce que la mauvaise foi, comment dire, peut être claire avec elle-même ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut... Je pensais à cause de Sartre. Est-ce que la mauvaise foi peut être au clair avec sa propre stature de mauvaise foi ? J'ai du mal à imaginer une réponse positive à cette question. Donc, ignorer consciemment...
Quelqu'un qui serait redevenu tranquille.
Oui, mais peut-être par traumatisme suite... par traumatisme pour gérer le trauma... De l'accident qui, du coup, effectivement, reviendrait dans une case...
Alors, la question du trauma...
Moi, j'ai des choses en tête.
La question du trauma, j'aurais pas le temps puisque je suis trop bavard. Mais enfin, elle était prévue pour dans deux séances. Ouais. Et parce qu'effectivement, c'est de ça qu'il s'agit, en réalité. C'est un traumatisme. L'expérience en question, c'est un traumatisme, y compris au sens de la psychanalyse, etc. Sauf que nous... Qu'est-ce que faire dans l'urgence ? Sauf si rien que se poser la question, c'est désespérant. Mais c'est, a priori, si on dit qu'est-ce que faire dans l'urgence, c'est quand même qu'on espère. Bon. Donc, si on ne désespère pas de la question même, ou par le fait qu'on se pose la question même, il faut qu'on arrive à penser une expérience qui soit à la fois traumatique et heureuse. Ce qui est évidemment un paradoxe. Alors, qu'il y a quelque chose, et ça, moi, je suis persuadé de ça pour des tas de raisons qui ne sont pas forcément d'abord conceptuelles, qu'il y a une proximité entre entre l'angoisse et le plus grand bonheur. Mais c'est un propos assez grave. C'est-à-dire que le bonheur, je ne sais pas, je suis toujours embêté parce que je suis enregistré, donc c'est quand même l'histoire de l'olive. C'est un sacré texte, hein, ce texte d'olive écrasée d'huile qui finalement, je trouve ça, je n'en sors pas quoi depuis que j'ai lu ça. L'humanité bien casée a peur de son propre bonheur. Et elle se défend, pas seulement du malheur, elle se défend du bonheur même, qu'elle pourrait trouver peut-être à faire pas grand-chose. À faire pas grand-chose dans une certaine pauvreté. Bon, je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit précédemment. Il y a peut-être l'élément d'un bonheur alors, dont nous n'avons pas peur absolument en tant que sujet, comme j'essaierai de le dire par la suite, mais dont nous avons peur en tant que sujet casé. Parce qu'en réalité, le sujet casé, il ne vit pas pour lui. Il vit pour perpétuer les cases du monde qui sont bénéfiques pour, non pas lui, mais le pouvoir, ce que j'ai appelé le pouvoir ce soir. Et en fait, désobéir, échapper au pouvoir, ça fait peur. Et c'est pourtant ça qui est en cause.
Et ça impose de vivre le bonheur en supportant certaines angoisses.
Pardon ?
Ça impose de vivre le bonheur en supportant certaines angoisses.
Certaines ?
Certaines angoisses.
Bah, c'est-à-dire que pour être un peu optimiste, je dirais que la capacité de supporter le bonheur a peut-être pour condition l'abandon d'une situation existentielle, cet abandon étant lui-même angoissant. La tribulation, c'est le moment où il est en jeu l'abandon d'une situation qui est angoissante, c'est angoissant. Alors, bon, j'ai pas le temps de revenir sur l'analyse freudienne de l'angoisse, ou de même Heidegger, au fond, c'est la même. Mais il s'agit d'abandonner une situation dans laquelle on a pris ses aises, on a trouvé sa commodité, etc. Et abandonner ses commodités, se retrouver sans appui, etc., évidemment, c'est angoissant. Enfin, évidemment, oui.
Est-ce qu'on
arrête.
On continue bah, parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui se déconnectent en plus. Alors.
Mais il est tard. Hein. Je vais réfléchir hein, sur le jeu. Mais je crois que j'ai compris hein, ce que vous me dites.
Non, mais il y a d'autres formes. Enfin, en réfléchissant, c'est très réducteur. Il y a bien sûr d'autres formes.
Je crois que j'ai compris. Je crois pas que le problème serait dans le fait que je comprends pas ce que vous dites. Le problème est chez moi, je n'arrive pas à me satisfaire, à trouver mon bonheur avec ce mot. Et alors, est-ce que c'est un problème conceptuel ou seulement psychologique, c'est-à-dire ça se soigne chez le psychanalyste, ça. Pourquoi ce mot m'est interdit ou pourquoi je me l'interdis. Ou alors, est-ce qu'il y a vraiment dans le ludique quelque chose qui serait un problème? Je ne sais pas. Mais j'ai compris quand même quelque chose ce soir sur la possibilité de mettre du jeu dans l'affaire. On arrête là ? Merci à tout le monde.
Merci.
Merci.